Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Un petit one-shot aujourd'hui avec Adrien. Adrien
Talapèche. Bonjour, bonjour.
C'est toi qui vas nous présenter un jeu exceptionnel.
Ouais, c'est ça.
À Jérôme. Jérôme, ça va, La Pêche?
Salut, ouais, ça va.
À Natacha. Natacha, ça va?
Salut.
La Patate.
Ouais, ça va.
Et à Vivien, fait à son Vivien, ça va?
Yes.
La Pêche. Alors, eh bien, c'est parti, on va parler de quel jeu?
Le jeu que je vais vous présenter s'appelle Hurlement. C'est un jeu de Jean-Luc et de Valérie Bizien qui est
Hurlement
sorti...
au pluriel.
Hurlement au pluriel, oui. Qui est sorti en 1989, donc il date pas mal.
Et il a mon âge.
C'est ça, il a ton âge. ce jeu est
déjà,
un voyage initiatique.
Ouais. D'accord.
On va poser les choses clairement. À secret. Donc, j'invite les auditeurs à être prudents. Si jamais ils veulent y jouer et avoir l'expérience optimale, il faudra s'arrêter d'ici peu. Parce que l'introduction, la création de personnages que l'on va faire en direct avec le personnage de Romaric, et déjà, c'est pas un spoiler, mais c'est dommage de pas le vivre avec son maître de jeu, je trouve.
D'accord. Donc là, c'est un avertissement pour les joueurs. Par
pour
contre, d'éventuels meneurs.
Pour
si
un éventuel meneur, vous pouvez tout écouter.
D'accord.
Pas de problème. Ensuite, si vous êtes juste curieux sur le jeu et vous spoilez le début, c'est pas gênant. Après, avec les retours de la partie, donc ça sera plus tard, là, je mettrai une autre balise de spoiler pour vous dire attention, à partir de là, on va révéler les secrets du jeu.
D'accord, voilà. Ok, très bien.
Donc juste un petit mot sur l'auteur, Jean-Luc Bizien, qui est l'auteur de deux jeux de rôle, il me semble, si je dis pas de bêtises, Hurlement puis Chimère, qui reprend un petit peu les idées d'Hurlement et les retravaille un petit peu. Je le connais très peu, ce jeu. Et ensuite, c'est un auteur de polar et de fantastique, et de fantasy. Et notamment, moi j'avais lu quand j'étais adolescent une série de livres qui s'appelait Le souffle du dragon, L'éveil du dragon, L'envol du dragon, qui sont des livres jeunesse plutôt sympas. Et puis ensuite, là, je viens de voir, en regardant un petit vite fait sa page Wikipédia, qu'il avait aussi participé à beaucoup des albums, La librairie au 100 trésors, Les machins au 100 machins.
Oh, cool!
Du coup, voilà, c'est assez rigolo.
Sympa, ouais.
Voilà. Donc, maintenant, revenons à Hurlement. Donc, Hurlement, c'est un jeu, c'est un voyage initiatique où les joueurs vont jouer des saltimbanques dans une caravane qui va voyager dans la France médiévale. Et voilà, c'est une caravane qui a forcément quelque chose de spécial, et cela vous le saurez très prochainement avec la création du personnage Romaric.
On va créer un personnage,
personnage
live avec Adrien tout à l'heure.
Voilà. Le jeu, c'est un jeu qui est à campagne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, pour en profiter pleinement, il faut y jouer longtemps. C'est vraiment un jeu qui est pensé pour jouer longtemps, ça se rapproche de Sens de ce côté-là. Alors, à la différence de Sens, c'est pas un jeu où les secrets sont scriptés.
D'accord.
C'est un jeu où les secrets sont là. Et
les joueurs
vont transparaître, ils vont transparaître au fur et à mesure des scénarios et au rythme où le MJ les distillera. Les joueurs peuvent difficilement les trouver de eux-mêmes. Alors ça se peut, hein. Dans certains scénarios ils auront des indices, ils pourront découvrir des choses, mais c'est vraiment plus un voyage où au fur et à mesure ils vont apprendre des choses.
Oh là là, ça a l'air génial.
Alors par contre, c'est vraiment un jeu à jouer sur la longueur. Par exemple, j'avais fait jouer 10 scénarios,
ouais.
Les joueurs avaient appris un premier secret.
Ah ouais.
Et ils étaient sur le point d'en trouver un deuxième au scénario suivant. Mais on n'a pas continué à ce stade-là, parce que moi, je commençais à en avoir marre de faire des scénarios de Hurlement, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même... Enfin, c'est compliqué, hein, de faire des scénarios de ça. C'est une ambiance assez particulière. Et c'est un jeu qui a beaucoup plu, il me semble, aux GNistes, hein, les gens qui faisaient de la reconstitution. Parce que du coup, c'est très historique. Et du coup, ils s'impliquaient beaucoup plus en termes de reconstitution historique. C'est des travaux qu'ils ont plus de facilité à faire. Moi, c'était plus laborieux à préparer. Et il y avait aussi des rassemblements comme pour Théa Semaine Sens. Ils avaient des semaines, ils se réunissaient. Alors,
semaine Hurlement.
Les semaines Hurlement, c'est ça. Et du coup, ils étaient dans un château fort, ils venaient costumés et ils reconstituaient une ville médiévale. Enfin, ça avait l'air assez. J'ai jamais pu connaître ça, mais ça avait l'air vraiment sympa. Et donc maintenant, eh bien, on va commencer avec la création de personnages de Romaric. Alors je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là.
Oui, ça sent pas le cramé, là. Et ça vient de nous, quoi. Ça vient de dehors. Quelqu'un qui fait un truc là dehors ou quoi? Attends, deux minutes.
Ouais, vas-y.
C'est le début de la synesthésie.
C'est ça.
Ok, donc mystère résolu. Hein. Il ne s'agit pas d'un hurlement du feu, mais bien d'un barbecue de Thierry Briand, mon père. Donc
pour
voilà,
l'instant,
ça, tout va bien.
Ce n'est simplement un barbecue.
Alors, la dernière fois, on a enregistré un podcast des petites choses oubliées avec Christophe et Sylvie, et ils ont eu un incendie pendant qu'on enregistrait le podcast. Ils ont eu un incendie dans la maison d'à côté. C'est pas une blague, les auditeurs pourront vérifier mes dires.
Alors, Romaric, pour la création de ton personnage,
ouais.
Je vais te demander de lancer deux dés,
ouais.
Qui sont ici, un D4 et un D12.
Un D4 et un D12, c'est parti.
Et c'est tout ce que tu vas faire.
3 et 12.
3 et 12, très bien.
Donc le perso est terminé, là, je l'ai créé.
Le perso est terminé, tu l'as créé, voilà.
Ouais, 3, 12, c'est presque 3, 16, en fait. Hein. Ça ressemble à un jeu...
Moi, sur mon... En gros, les feuilles de perso, je les ai devant moi. Vous ne les avez pas pour l'instant. C'est quelque chose que l'on a, on va dire, à l'équivalent du deuxième secret révélé. Donc mes joueurs ne les avaient pas encore vus au stade où on était. D'accord ?
D'accord.
Et donc, l'introduction de ton personnage, on va... les autres personnages sont déjà dans la caravane depuis quelques temps.
C'est génial.
Donc la scène que je vais faire vivre à Romaric maintenant en direct, ils l'auront déjà vécue à leur façon un peu avant. D'accord ?
Donc là, tu vas...
Je vais mettre de la musique et on va commencer. Tu ouvres les yeux. Autour de toi, des arbres, des feuilles, un petit ruisseau où l'eau coule tendre lentement. Et ton cœur n'est que douleur, ton corps n'est que douleur. Tu peines à ouvrir les yeux, tes muscles sont endoloris. Et le soleil t'aveugle, mais il te réchauffe et tu commences à bouger. Les feuilles bruissent à ton passage. Les oiseaux chantent dans les arbres. Tu as faim. Un terrier, un lapin, une morsure et un repas. Tu t'allonges, tu te reposes auprès de l'arbre. Et ce sont des heures plus tard que tu t'éveilles, pris d'une peur terrible. Des vibrations t'ont éveillé. Une botte est devant toi. Un grand homme, tout de noir vêtu. Un chapeau gigantesque sur la tête couvre ses cheveux argentés. Il tient une canne en noyer, noueux. Il te regarde dans tes yeux et te fixe. Tu as peur, terriblement peur, et tu t'enfuis. Tu sinues à travers les herbes hautes. Tu te plonges dans la rivière et dans la mare non loin, et tu t'éloignes. Mais ses pas tranquilles te suivent. En un rien de temps, il t'a rattrapé. Affolé, tu le regardes. Il te dévisage. N'aie crainte, mon ami, te dit-il. Je t'ai reconnu et t'ai trouvé. Viens, viens parmi tes frères et tes sœurs. Alors, l'homme se met en marche. Il te tourne le dos et part à travers la forêt. Cela est plus fort que toi. Tu ne sais pourquoi, mais tu dois le suivre.
Je suis.
Tu le suis. Il t'emmène à travers les bois jusqu'à l'orée de la forêt. Et là, dans une vaste clairière, tu aperçois une caravane. Des roulottes, des bœufs, des ânes, des hommes, des tentes, une odeur de nourriture. Tu as un peu peur, mais tu es rassuré en ton cœur et tu le suis. Quand tu arrives au centre de la caravane, tous les humains, tous les animaux présents ici se sont tournés vers toi. Ils te regardent. Et l'homme prend la parole. Mes frères, mes sœurs, voici Romaric, votre nouveau frère. Réservez-lui un accueil chaleureux.
Bienvenue.
Merci à vous. Ok. Oh putain. Alors c'est énorme. Déjà j'adore la musique, ça me fait penser à...
Ouais, la musique avait été choisie avec soin pour ça. Ouais.
Ça me fait penser à... Je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, ça s'appelle Lost Wind. J'en parle très très souvent, c'est un jeu de Braben sur la Wii et c'est des musiques très zen comme ça, très... j'aime beaucoup.
Alors ouais. Cette piste, si jamais vous voulez la retrouver, c'est les cantiques d'Alphonse X, donc qui était un roi compositeur espagnol. Qu'on appelle ouais. Le Trouvert, je crois. Et donc, du coup, il a composé plein de chansons qui ont été reprises récemment par divers Espagnols. Donc, j'avais trouvé ça quelque part sur Internet. Voilà, et cette piste, c'est Le Dragon.
Ah, en plus, ça colle bien à l'auteur du jeu.
Et voilà. Et donc, c'est une scène similaire qui fait que chacun d'entre vous a rejoint la caravane.
D'accord.
À ce stade-là, donc...
C'est intéressant, il m'a appelé Romaric. On est bien d'accord.
Oui, il t'a appelé d'accord. Romaric.
Mais tu ne m'as pas demandé quel était le nom de
Je ne t'avais pas demandé ton nom. Ouais. En fait, on peut soit jouer avec le nom des joueurs, soit jouer avec un nom de personnage autre. Et le tien s'adapte bien à l'époque, donc
Ah d'accord, ok. C'est pas. T'aurais pas dit Jérôme pour Jérôme, on est bien d'accord.
Alors
t'aurais...
les autres, je leur... vu qu'on a fait leur perso un petit peu avant, je leur ai demandé de choisir leur prénom. Toi, j'avais oublié de te demander de choisir. Du coup, sur le coup, ben, j'ai pris Romaric.
Romaric,
parce
très bien.
Que, voilà.
Okay. Mais c'est pas.
Mais c'est adapté. Voilà. C'est...
D'accord, voilà. Très bien.
Entendu. Donc les autres personnages sont Hygerne, joué par Natacha, Morel, joué par Jérôme, et Eude, joué par Vivien.
Très bien.
Et donc, à ce stade-là, les joueurs se rendent compte du premier secret. Chacun des membres de cette caravane est un métamorphe. Il peut se transformer en un animal. D'accord. Pour toi, je ne sais pas si tu l'as compris, quel animal est-ce ?
Alors, j'ai, du coup, quand je m'occupais aussi un peu du son, mais attends, si. J'ai noté quelque chose, je me suis dit, tiens, c'est bizarre dans la phrase. Non, je suis désolé, du coup, j'étais pas... C'était un...
Moi, j'aurais dit le loup. Ouais, j'aurais dit un loup aussi.
Un serpent.
C'était un serpent, d'accord. Je me suis dit à un moment donné que dans la description.
Alors
je
là, vu que je l'ai improvisé, j'ai pas eu le temps de mettre autant de détails ou de finesse que je voulais d'habitude.
Mais j'ai senti qu'à un moment donné, j'étais pas humain dans la description.
C'est ça, bien sûr. Bien sûr. D'habitude, je joue avec le langage pour qu'on pense que c'est un humain au début, et puis au fur et à mesure introduire des éléments qui font poser des questions, et puis qu'on se rende compte de quel animal c'est.
D'accord.
Donc voilà, chacun des quatre personnages ici a un animal en lequel il peut se transformer. Pour toi, c'est le serpent.
D'accord.
Pour Natacha, c'est l'aigle. Pour Jérôme, c'est le loup. Et pour Vivien, c'est le cerf.
D'accord, très bien.
Et donc, chacun des membres de cette caravane, qui est dirigé par le personnage que l'on appelle le veneur, qui est cet homme en costume
gris,
noir, avec un grand chapeau noir. C'est aussi comme ça que vous m'appellerez pendant la partie.
Le veneur.
Je suis le veneur.
Tu es le veneur de vœux ou le veneur de zeux ?
Est-ce qu'on mange à la sauce grand veneur ce soir ?
Exactement.
Ou est-ce qu'on va être mangé à la sauce grand ?
Vous allez manger à la sauce grand veneur.
Très bien, ok. Est-ce que tu as fini cette présentation ?
J'ai fini la présentation.
On peut commencer la partie, on coupe les micros.
On peut commencer la partie.
On y va, c'est parti.
On joue.
On joue.
Bon, et bien voilà. Fin de la partie.
C'est fini.
On teste rapidement les micros là, on entend
blablabla.
Tout le monde.
Je suis tellement frustré là.
Ouais.
Ah, je suis désolé. Hein. Alors, c'est le défaut de ce genre de scénario peut-être un petit peu, mais c'est aussi leurs avantages, je pense.
Bon, qu'est-ce qu'on a fait au cours de cette partie ? Qu'est-ce qu'on a découvert au cours de cette partie de nous-mêmes et de l'univers d'Hurlement ? Qui veut commencer ? Peut-être présenter d'abord les personnages. On avait donc le personnage de Vivien qui s'appelait Eude, qui avait le pouvoir de, enfin qui avait cette capacité de se métamorphoser en cerf.
C'est ça.
On avait le personnage de Morel, personnage de Jérôme, qui lui avait le pouvoir de se changer en loup. Ah, on ne vous entend pas, les gars.
On ne vous entend pas ?
Non, le micro doit être éteint. Ouais.
Ah. Le câble en dessous.
Pouette.
Ah, ça y est, on vous entend à nouveau.
Ah.
Ouais. C'était parce que c'était le micro que j'utilisais pour la musique tout à l'heure, il n'avait pas le même réglage. Voilà, c'est bon, on vous entend.
C'est bon ?
Ouais. Donc, Morel, lui, jouait le personnage du loup, qui avait la capacité en tout cas de se changer en loup. Mais, ouais, on en parlera, mais c'est intéressant comme cette capacité de se changer en un animal
influence
offre, donne
tellement
une
le personnage.
Couleur voilà, ouais. Au personnage. Et enfin, Hygerne. Hygerne ou Hygerme ?
Hygerne.
Hygerne, on est d'accord.
Qui est la maman de Arthur, en fait, dans Les Chevaliers de la Table Ronde.
D'accord. Qui avait ce pouvoir de se transformer en faucon.
En aigle. Et Romaric, qui pouvait se transformer en serpent.
Voilà, c'est
et
ça.
Et qui s'appelait Romaric.
Comme les auditeurs l'ont entendu.
Ça m'a un peu perturbé tout le temps du scénar, d'ailleurs. Mais...
C'est vrai, moi aussi. Mais...
ouais. Bon, c'est clair, déjà, premier point qu'on peut soulever sur Le Mans, c'est que déjà, les animaux qui vont servir de totem au personnage, le fait qu'ils puissent se transformer dans un animal X ou Y, va énormément influencer leur psychologie.
Bien sûr.
Et on va avoir tendance à associer des traits, ça je trouve ça génial d'ailleurs, hein, des traits...
Et des comportements.
Et des comportements qui sont adaptés aux symboles de notre... De notre animal.
Par exemple, Romaric aura été sournois, discret, taciturne. Et...
Alors, je dis, on va essayer.
Bien sûr.
Mais en fait, rapidement, la véritable personnalité des joueurs a tendance quand même à éclater.
Oui. Moi, ouais, j'ai eu du mal.
Moi, j'ai eu du mal à mettre cette couleur-là. Peut-être aussi parce que je connais pas assez le comportement des aigles, mais
peut-être un petit peu, peut-être que ça vient avec le temps, forcément, pas forcément pour tout le monde. C'est peut-être que tu avais pas de mal à jouer ton personnage parce que tu lui avais donné déjà une personnalité en disant qu'elle était un peu âgée.
Peut-être.
Oui, voilà, ça, j'ai beaucoup joué sur l'âge que sur le.
On a peut-être pris l'animal comme premier réflexe de création.
Ouais.
C'est le plus souvent c'est l'animal effectivement, hein, le.
C'est clair, hein.
Je suis plutôt parti sur le côté musicien, enjoué, plus d'accord. que sur le côté du loup en fait. Même si au final mon personnage a été assez curieux et impulsif, donc au final ça colle pas trop mal je pense.
Et puis moi-même hein, pour les PNJ, donc la caravane que j'ai utilisée dans l'ensemble des PNJ, c'est ceux que j'avais utilisés dans une campagne précédente, donc je les ai repris.
D'accord.
Et au final tous les PNJ que j'avais créés, ils correspondaient plus ou moins au type d'animaux qu'ils étaient.
D'accord.
C'est-à-dire que celle qui pouvait se transformer en chat était très solitaire, celle qui pouvait se transformer celui qui pouvait se transformer en rat était super bouge partout et va fouiner la merde et tout.
D'accord.
Les deux ours étaient des gros rustres. Enfin bon, même si vous avez pas trop discuté avec eux. Enfin voilà, il y a ce côté qui transparaît beaucoup dans les PNJ. Ça c'est.
Les animaux servent de couleur en fait et de symbolique pour la création des personnages.
Et donc ça c'est un élément que vous ne pouvez pas voir du jeu. Mais les caractéristiques d'un personnage. Donc, les joueurs n'avaient pas accès à leur feuille de personnage. Mais en gros, les caractéristiques, il y a trois caractéristiques. C'est mental, réflexe et physique.
D'accord.
Et elles sont. Donc il y a une valeur fixe et une valeur qu'on rajoute qui dépend de l'animal que l'on a.
Bien sûr.
Et donc du coup, quelqu'un qui a l'ours, bah, il est vachement bourrin. Par contre, il ne va pas être très adroit et pas forcément être très futé. Par contre, quelqu'un qui a le serpent, il va être très agile, etc. Donc il y a les valeurs qui viennent se rajouter.
D'accord, ok.
Du coup, le comportement naturel des joueurs qui est de se comporter comme son animal quand ils sont humains est encouragé par les statistiques. Par les règles. Mais par les statistiques, du coup, par les règles.
Alors, Jérôme,
si on n'est pas au courant, c'est difficile de nous encourager à le jouer.
Oui, mais les joueurs peuvent me demander, est-ce que je suis à l'aise quand je fais ça ?
Ah, j'ai absolument pas pensé.
C'est quelque chose que vous n'avez pas pensé à faire, effectivement, mais moi je sais que dans la partie que j'avais fait, j'avais pas eu à le dire. Les joueurs m'avaient fini par me demander un jour, est-ce que je me sens à l'aise quand je fais ça ? Ou je vais m'entraîner au tir ? Et du coup, je vais m'entraîner au tir, je peux le dire, tu sens qu'effectivement, comparé à l'autre à côté, t'es vraiment efficace. Il faut effectivement tester ses capacités pour les évaluer.
Oui, j'ai l'impression qu'en fait, en one shot, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu exploiter.
Bien sûr. C'est un jeu campagne, donc il y a plein de choses qui ne peuvent pas se voir en un scénario ou qui vont être lacunaires parce qu'il faut le temps de s'immerger, de les apprendre.
En dehors de ça, si le jeu. Alors, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'on n'a pas accès aux clés qui nous récompensent pour quelque chose qu'on n'est pas récompensé pour cela. Le fait de jouer, tu vois, au final, si on est récompensé.
Non, mais je pense que Natacha a bien résumé, c'est le côté one-shot qui fait ça. Parce que moi, avec mon personnage, à aucun moment, je me suis rendu compte que j'étais plus efficace sur certaines actions que sur d'autres, d'autant plus que j'ai eu des jets pourris.
Oui, je pense que si on avait été en campagne, par exemple, entre deux scénars, j'aurais été faire des recherches sur les aigles, tu vois.
Voilà, ou même au bout de 3-4 parties, à mon avis, tu t'es rendu compte que.
Tu vois, enfin.
D'accord, ok.
Mais il n'empêche que. C'est bête, hein, mais le cerf, qui est quand même une des créatures bourrines dans l'esprit, et le loup sont les deux qui se sont battus dans ce scénario.
Oui, tout à fait.
Même si t'as raté, parce que bon, bah, les dés n'étaient pas avec toi, ça arrive. Surtout que dans ce jeu, il y a pas mal de hasard. C'est des descents, donc forcément, quand t'as 75%, bah, t'as une chance sur 4 de rater quand même.
Ouais, c'est sûr.
Donc ça influence pas mal. Et du coup, effectivement, le cerf et le loup sont ceux qui sont battus. C'est assez caractéristique de ce qui se passe dans Hurlement, au final.
Encore une fois, c'est pas parce que tu ne vois pas la récompense que tu n'es pas récompensé du fait de jouer ton personnage, tu vois. Mais bon, oui, non, mais je suis d'accord avec toi que sur un scénar en campagne, on se serait vachement aperçu de ça, on aurait commencé à tilter.
Il y a eu peu de lancers de dés.
Il y a eu des moments où j'ai réfléchi à ça, c'est quand Adrien, à un moment donné, en tant que meneur, m'a dit. Il a fait dire à un PNJ tu as l'air costaud.
Ouais.
Et là je me suis dit est-ce que c'est pas Adrien est pas en train de décrire mon personnage
pour un petit peu de ça.
Pour me dire tu as l'air agile, t'aurais pu me dire tu as l'air d'être doué de tes mains par
c'est
exemple.
C'est ça. En fait, j'ai mal formulé sur le coup, je voulais t'encourager de ne pas en fait te
pas
montrer
bête,
une
ça.
Force mais je l'ai pas formulé bien.
Mais oui, voilà, il y a aussi les autres en fait et ça c'est un truc vachement intéressant, c'est qu'on en apprend plus en tout cas ça semble être un message d'Hurlement, c'est que on en apprend aussi en faisant. C'est-à-dire c'est en faisant qu'on apprend qui l'on est.
Oui.
Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est en écoutant les autres nous parler de nous-mêmes que l'on apprend qui l'on est.
Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est extrêmement humain au final. C'est qu'en tant qu'humain, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es doué, enfin, de, pourquoi tu es doué avant d'avoir essayé.
C'est surtout qu'on joue des amnésiques.
C'est ça, coup, bien sûr.
Là, pour le coup, ça marche bien dans cet esprit. Parce que sinon, quelque part, c'est un peu absurde. Parce que finalement,
oui, tu as l'expérience
moi, en tant qu'être humain, je sais quand même où sont mes talents. J'ai pas besoin d'une feuille de personnage. Marc et Vivien fait à son bien pour sûr. Savoir.
Tout à
c'est
fait.
Là où si j'affronte quelqu'un d'un peu baraque dehors, je sais qu'il va me casser la gueule. Il n'y a pas de problème.
Tout à fait. Et c'est pour ça que
Alors là, t'en sais absolument rien avant de t'être battu contre lui. Ça, c'est un présupposé, tu vois. C'est vraiment un présupposé parce que...
D'accord, je vais essayer cette semaine, je te dirai comment ça s'est passé, je te remercierai après.
On fera un tournoi de lutte gréco-romaine.
On essaiera de trouver deux gros bûcherons. Non, mais Romain, je pense que t'as raison. C'est... Hein. C'est vrai que c'est probablement moi, et puis c'est dû peut-être au one-shot, mais j'ai raté. Enfin,
oui, c'est vrai
que tu dois avoir raison sur le fond.
Mais... qu'est-ce qu'on disait? Oui, par rapport à ça, la proposition du jeu qui est d'apprendre à se connaître en fait.
Oui.
C'est ça que je voulais dire, c'est que bien qu'on soit amnésique, ça ne pose pas le problème que l'on trouve dans la majeure partie des jeux où on est amnésique, à savoir qu'on manque d'objectifs.
Oui.
J'ai trouvé que dans Hurlement, avec ce système de la caravane et avec ces règles de la caravane.
Oui.
À partir du moment où on a quelque chose qui se déclenche dans le village où on arrive, on a tout de suite un objectif qui va apparaître en contradiction avec les objectifs globaux de la caravane, et donc des dilemmes qui vont être soulevés. Et donc, du coup, on ne va pas être dans ce cas du problème de l'amnésie. Tu sais, où vous avez tous ressenti ce problème de l'amnésie, qu'on ne sait pas comment jouer, on ne sait pas comment créer.
Oui.
Là, on est amnésique, mais on a quand même une couleur, la couleur de notre animal. On est amnésique, mais on a quand même des amis. On est amnésique, mais on a quand même une caravane. On est amnésique, mais on a quand même le droit de parler comme on veut.
Et des devoirs et des droits dès le début.
Une petite question technique.
Ouais.
Parce que ça, quelque chose à dire sur l'amnésie, ça vous aide.
Moi non.
Petite question technique. Imagine par exemple, donc tu nous as dit le D12, c'est l'animal. Ouais. Et le D4, c'est la situation.
La classe sociale du personnage avant qu'il devienne amnésique.
La question, c'est est-ce que si on avait fait par exemple tous 12 au D12, on aurait tous été des serpents?
Je vous aurais fait relancer, en fait. Parce que c'est intéressant qu'il y ait des animaux différents.
D'accord, voilà, c'est ça. Donc, okay.
À la limite, deux serpents, j'aurais peut-être laissé. Mais je suis même pas sûr.
Pour la situation sociale, tu nous as tous laissé avec trois.
Fiche, ouais. C'est
on
pas
a
très...
tous fait trois, hein, je ouais. tiens.
Donc, ouais. C'est-à-dire tous paysans, affranchis, valets de ferme, servants ou apprentis. Ouais. En fait, ça, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant au début. Ça devient intéressant. En fait, ça, c'est un élément qui, sur le long terme, pour le MJ, c'est des pistes pour faire des scénarios autour du passé d'un personnage, par exemple.
D'accord.
Faire revenir la caravane, mais ça c'est un des moteurs de la campagne, c'est faire revenir la caravane là où quelqu'un a eu son passé, son enfance, et jouer autour de, il est reconnu par ses parents.
Il est susceptible d'être reconnu. Ouais,
et du coup, c'est un élément moteur de jeu, et puis c'est aussi un élément qui peut indiquer au joueur comment jouer un petit peu. Quand tu lui dis, voilà, tu es d'origine paysanne, il va pas le jouer pareil que si tu dis, tu es d'origine noble. Moi, j'ai des PNJ qui sont dont le comportement est guidé par le fait qu'ils sont d'origine noble, et du coup ils ont quand même une prestance, une habitude, un vocabulaire riche.
Alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'a pourri, et moi que j'ai pas du tout joué, j'en avais rien à foutre d'être d'origine paysanne, parce que pour moi le canon principal c'était l'animal, j'en avais rien à foutre de l'origine.
Mais du coup je me suis mis à parler
de façon comme un intellectuel avec la réflexion et tout, parce que moi j'imagine le serpent malin
pour moi, voilà. Ça ne nie pas le jeu, enfin, ça va.
D'accord, okay, très bien.
C'est pas antinomique.
Ouais. C'est, je me suis dit tant pis, si même si j'ai des origines paysannes, le fait que j'ai gagné cette caravane et que le veneur soit venu me chercher, bah, ça m'a éveillé une certaine forme de conscience et
oui,
de connaissance.
Bien sûr,
et...
cet éveil est quelque chose de magique, voilà. Effectivement.
Moi, c'était la même chose. Hein. Moi, au final, je jouais... Enfin, mon intention de départ, c'était le musicien, ouais. Vraiment influencé par la vie de la caravane, la vie de Troubadour, et plus Troubadour que...
Bien sûr.
Ex-serre affranchi.
Oui, bien sûr. De toute façon... Ça peut devenir une question du personnage,
ouais.
Quel est mon passé, mais ça peut être aussi justement un rejet du personnage, se dire mon passé maintenant c'est fini parce que je suis complètement autre chose, et du coup
c'est assez marrant parce que quand même tu nous as dit quels étaient nos animaux dans lesquels on pouvait se transformer,
oui.
Et c'est tout. Après tu nous as décrit quelques PNJ importants de la caravane.
Ouais.
Et ensuite, boum, tu nous as dit, bon, bah après votre âge, votre style, vous faites à peu près ce que vous voulez. Et là, c'est non seulement tu dois trouver ta place au sein de la caravane, mais tu dois trouver ta...
ton apprentissage.
Toi, tout court, ouais. même. Ouais. Enfin, tu dois te trouver en même temps.
Tu fais ton perso en... à ce moment-là, en fait.
Et là, il y avait vraiment le côté. Enfin, j'ai trouvé ce que tu disais, Romaric, tout à l'heure. Ouais, tu essayes des choses, tu vois.
En général.
Tu tâtes un peu l'initié, voir si Gauthier, c'est un mec sympa ou pète sec.
C'était intéressant de. Ça aurait presque été intéressant de trouver de l'eau, enfin, une surface miroitante
voilà,
pour.
C'est ce que je dis. À l'origine, quand, la scène de réveil, je la faisais. Enfin, voilà. Quand on a le temps, je fais jouer la scène de réveil où le joueur se réveille, enfin, le personnage se réveille dans la dans une roulotte ou dans un lit et il y a un miroir en bronze poli à côté de lui et du coup c'est le moment où il se voit qui se décrit.
D'accord.
Ouais. Et ensuite il sort, il s'habille, donc il décrit ses habits, il rencontre quelqu'un et du coup il va pouvoir présenter sa personnalité en parlant.
Là il y a une espèce de super cohérence du point de vue du système de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on soit amnésique et en même temps privé de notre fiche de personnage, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est Hurlement ? Hurlement, c'est un jeu dans lequel, en tout cas dans le scénar tel qu'on l'a joué là, on est au courant du système de jeu.
Oui.
Puisqu'on sait qu'il y a un meneur, le veneur qui s'explique et qui s'exprime au départ.
Le meneur le but est un personnage dans la.
Oui,
dans
tout à fait. C'est à la fois un guide et un personnage. Oui. Et c'est un guide. Et ça, c'est présenté. Alors, évidemment, le système de jeu est présenté de façon métaphorique.
Oui.
Mais on comprend très, très bien ce qui se passe. Dans la description que tu as faite au début de ce one-shot, on comprend très, très bien que ça va être un guide qui va nous guider vers une quête initiatique
qui a l'air bien au courant de nos actions secrètes aussi.
Tout à fait.
Ah bon
tout à fait.
Ah, en tout cas, vous pouvez l'interpréter comme ça, mais vous ne lui avez pas demandé texto. Au fait, vous étiez au courant qu'on a tué deux bûcherons à coups de hache. Ils auraient peut-être répondu une réponse évasive. Il
faudrait peut-être parler de la fiction, du coup, dans l'ensemble.
Oui, mais on y viendra.
Mais juste pour dire que, ici, par exemple, si on continue à conserver cette vieille distinction, même si on sait qu'elle est un peu pourrie, mais entre le système de résolution et le système de jeu, on voit bien que, ici, le système de résolution nous est caché. Oui, totalement. Et que seul le système de jeu existe. Et le fait que le système de résolution soit caché fait lui-même partie du système de jeu. Donc c'est...
Alors justement, là,
ça fonctionne très bien.
Je vais rebondir là-dessus. Il y a un moment dans le jeu où vous avez le droit de prendre les fiches de personnages, de les avoir devant vous. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je ne sais pas si c'est dit tel quel.
Un moment où
dans
on
le
a
jeu.
Compris qui on est, en fait.
Voilà, c'est ça. Il y a un moment où vous comprenez qui vous êtes. Et du coup, vous avez le droit de prendre vos fiches de personnages. Et à ce moment-là, effectivement, bah, vous vous connaissez, vous avez les stats.
Parce que tu me disais en début de partie qu'on n'avait pas accès à nos fiches parce qu'il y a des spoils dessus.
Oui, il y a un spoil sur la fiche.
Ça, c'est marrant, ça. Ouais.
En fait, il y en a même peut-être plusieurs, mais...
Je ne t'en rends plus trop compte à force de les connaître.
Un, ouais, deux, ouais, s'il y en a quelques-uns. En fait, le problème, c'est qu'il y a des mots-clés qui font que tu te poses des questions et qu'a priori, tu n'as pas du tout à te poser à ce stade-là du jeu.
D'accord, ouais. Okay.
La caravane se révèle au fur et à mesure.
Alors oui, alors qu'est-ce qu'on a fait c'est vrai, Vivien disait tout à l'heure
alors,
qu'il était peut-être temps.
Tant qu'on parle du système de jeu, tout ça, j'aimerais parler de comment sont écrites les règles. Parce que c'est quand même, pour moi, c'est quand même vraiment un jeu qui, malgré son âge, est un modèle sur la chose. Alors il a ses failles et autres, hein, ça, j'en parlerai. Mais en gros, le livre de règles commence en expliquant ce que c'est qu'une partie de jeu de rôle. Et il l'explique plutôt bien, en expliquant ce qu'on va attendre des joueurs, ce qu'on va attendre du MJ, ce qu'on va attendre du système, c'est-à-dire que, ok, il y a un système qui est très simple, que parfois, aller chercher une statistique, quand vous ne la trouvez pas, ben, vous faites un lancer beaucoup plus simple, on oublie, voilà, que le système de résolution peut s'oublier,
d'accord.
Que l'important c'est la cohérence, que l'important c'est l'histoire, que l'important c'est la narration que font les joueurs. Mmh. Et que du coup, ce qu'il faut privilégier, c'est ce que créent les joueurs au final. C'est la cohérence et tout ça. Il précise le matériel. Enfin, il y a vraiment une présentation qui est très, enfin voilà, qui est vraiment très intéressante.
Moi, c'est marrant parce que j'ai beaucoup entendu parler d'Hurlement sur les conventions et tout parce que les gens me disent ça ressemble beaucoup à Sens.
Oui, mais bien sûr. Hein.
Et moi, j'avais jamais joué. Hein, la preuve, hein, je le découvre ici.
Et quand on lit les règles, il y a un passage où on arrive. Voilà. Là, seul le veneur a accès aux règles de jeu. Ouais. Tout joueur qui lit au-delà de ça perd le plaisir du jeu, la découverte, la surprise. Si vous jouez à l'Hurlement, refermez ce livre dans votre intérêt. Après, il sera trop tard. Et voilà.
Voilà.
Et voilà. Et après, est-ce qu'on tourne la page ou pas? Et si on tourne la page, eh bien.
On s'engage à devenir meneur de jeu.
Alors après, je peux très rapidement parler des failles quand même du système qui a ce côté ancien où il y a plein de compétences, dont certaines un peu lourdes, un peu inutiles. Au final, on voit la trace des rôlistes passionnés de statistiques parce qu'il y a des moments où ils disent bon ben voilà, on a mis un tableau de localisation des coups, Mais on vous conseille, enfin, si vous voulez l'utiliser, utilisez-le. Si vous voulez utiliser des statistiques plus compliquées, allez-y. Mais eux, en fait, on a l'impression qu'ils auraient voulu faire un truc plus simple encore. Enfin, en gros, virer plein de choses qu'ils ont
mises.
Mais pour s'adapter à l'époque et au public, ils ont mis des tableaux de statistiques avec des caractéristiques. Alors, en gros, les caractéristiques, pour vous dire, il y a une liste, il y a escalade, évaluation, influence, des caractères comme vous les connaissez, quoi, des trucs classiques, dextérité, écrire, écouter, enfin voilà. Et leurs valeurs, ça dépend des valeurs que vous avez dans les trois compétences ou d'une moyenne de deux. Donc, par exemple, en camouflage, c'est ce que tu as en mental. Point.
D'accord. Point.
Voilà. En arme de jet, c'est mental plus physique. Enfin, divisé par deux, mais point, voilà, c'est tout. Du coup, faire la fiche de perso, c'est faire quelques moyennes et tout. Donc, ça a le défaut d'être un peu lourd au final, parce que aller voir dans des caractéristiques, des compétences, alors qu'au final, tu pourrais juste te baser sur les trois caracs en faisant un petit peu prof de jugeote.
Ouais.
Mais bon, voilà, donc ça a ses petits défauts.
Pour le coup.
Donc, une autre des points hérités du jeu de rôle plus traditionnel ancien, c'est le fait que ce soit moi qui jette les dés, le MJ.
Derrière l'écran.
Ça a deux intérêts. C'est que, et ça, c'est un truc que je trouve intéressant dans ce genre de jeu, c'est que, je peux vous cacher des jets de perception ou autre. Et ça, c'est un peu gênant dans les jeux où tu as raté ton jet de perception. Il y a quelque chose, mais je ne me rends pas compte. Ça permet une super scène, je trouve, dans cette partie.
D'accord. Ouais, la scène, on en parlera peut-être après. Ouais.
Et puis, ça a certaines lourdeurs. Au contraire, c'est lors des combats. Le système est... Il y a attaque, esquive, c'est pas très clair.
Oui, c'est ce que je voulais te demander, en fait. Ouais. En gros, quand on fait un jet...
Je viens.
Donc, c'est toi qui fais les jets, mais en fait, t'es obligé de faire deux jets, c'est-à-dire un jet c'est pour ça. Nous et un jet pour l'opposition.
C'est ça, ouais.
D'accord. Donc, c'est là où, par contre, ça marche plus
alors,
du tout.
Après,
un système avec un seul jet marcherait beaucoup mieux dans ce cadre-là.
Honnêtement, je sais pas si je le jouais exactement comme il faut. Ah. Les règles, parfois, sont un petit peu pas très claires. Par exemple, il y a, en fait, l'ordre du. La résolution d'un combat commence par l'annonce des intentions des joueurs, enfin des personnages, par ordre décroissant d'initiative, entre guillemets. Celui qui est le plus lent dit d'abord ce qu'il va faire. Donc en gros, s'il y a un combat contre quelqu'un de lent et quelqu'un de rapide, et que le gars de lent dit « je vais me protéger », le gars de rapide va attaquer. Voilà. Et le problème, c'est que je sais pas, si tu annonces que tu attaques, est-ce que tu as le droit ou pas à une défense, c'est pas très clair ce genre de choses. Donc je partais du principe que tout le monde avait le droit à d'esquive d'attaque, mais c'était peut-être un petit peu trop lourd.
D'accord.
Mais ça aurait été vraiment beaucoup plus dangereux pour vous, parce que... Enfin bon, voilà, donc... En fait, c'est un jeu où j'ai quasiment jamais joué de combat. En pratique, on en joue quasiment jamais, parce que c'est tellement violent et dangereux que...
Ouais. Et là, il s'est trouvé qu'on en a joué.
Je pensais pas en jouer, en fait. Enfin, vraiment pas.
Un hasard
du coup,
total. Alors, justement, on va peut-être maintenant se lancer après ce petit. C'est intéressant aussi de savoir comment la base
est
faite.
Bien sûr, comment fonctionne le système.
Effectivement, parce que nous, on l'a pas vu, ça. C'est-à-dire que là, tu nous parles du système. Alors, de la base qu'on n'a pas lu, mais surtout du système de résolution qu'on n'a pas vu. Ah, ça y est, je vois tout, là. L'écran vient de tomber devant moi. Ça y est, je vois tout. Enfin.
Sachant que sur l'écran, il y a des spoils, donc pareil.
Ouais, donc, faut pas regarder. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, ça, c'est indispensable que tu nous le dises, parce qu'on ne peut pas le deviner.
Bien sûr, oui.
Donc, la petite fiction, c'est très simple. On arrive, on fait partie de cette caravane et on arrive à Moncontour, un village de Bretagne.
Alors, juste à noter, c'est le premier scénario qui est dans le livre de règles.
Et c'est Moncontour en Bretagne.
Moncontour en Bretagne, ouais. C'est le scénario qui est dans le bouquin de base.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, je croyais que tu avais choisi la Bretagne parce qu'on...
Non, moi je m'en suis douté à un moment, je me suis dit, parce qu'il a cherché dans ses notes, enfin dans sa...
Et il
dans
a dit, son... je pense que c'est en Bretagne.
Il a dit Moncontour.
Alors
il
après,
a regardé,
quand t'as choisi ton scénar, tu m'as dit tout à l'heure, je pense que je vais vous faire jouer celui-ci parce que c'est pas très loin de là.
Alors il y avait ça, puis en fait c'est surtout que l'autre scénario que j'avais à moi pour débutant, enfin vraiment de tout début, il abordait des problématiques... je sais pas, qui était peut-être moins intéressante que celui-là.
D'accord. En tout cas, ça c'était exceptionnel. On arrive à Moncontour. Il y a eu la nuit dernière ou récemment.
Il y a deux nuits,
l'assassinat d'une femme qui a été tuée par une bête.
Ouais. Le corps lacéré,
etc. Et ils ont arrêté un individu.
Le lendemain au soir. Les villageois aperçoivent une bête et commencent une battue.
Il va être brûlé au bûcher dans 3 jours à peu près.
C'est
à peu près 3 jours. Et donc nous, forcément, en tant que je sais plus comment tu dis, métamorphe, on est amené, on va se demander, mais finalement cette personne qu'ils ont arrêtée n'est-elle pas l'un des nôtres et ne doit-il pas regagner la caravane? Et à vrai dire, on n'en sait rien du tout. On le suppose, mais on ne sait pas si c'est le cas ou pas. Donc on va essayer, tout en faisant nos activités de caravanier, donc c'est-à-dire de monter un chapiteau pour faire un spectacle, etc., ouais, d'enquêter sur ces meurtres pour essayer d'identifier si oui ou non le coupable est cet individu qui est emprisonné ouais, à l'église et qui va se faire brûler d'une part, et d'autre part, si oui ou non, c'est une créature métamorphe qui est digne ou pas d'être sauvée. Et là, ça devient du Dogs in the Moncontour, enfin in the Hurlements, je sais pas comment le dire. C'est Howling Dogs.
Dogs in the Champ de Blé.
Je sais.
Dogs in the Caravan.
C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve pris de plein de dilemmes, Natacha.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est dilemme. Tu veux nous en parler parce que t'as été comme moi au cours de ce scénar.
Parce qu'il y a la vie d'un enfant qui est en jeu, mais en même temps c'est pas un enfant qui on est attaché et dont la vie n'est pas notre priorité et au contraire on a d'autres priorités voilà auxquelles on est plus attaché. Enfin
qu'est-ce qui doit primer?
Est-ce que les règles sont les règles? Est-ce que je les ai données au podcast ou pas?
Non, pas pendant le podcast. C'est pour ça que je voulais qu'on les cite là.
C'est très important.
Ça qui a guidé nos actions finalement.
Ouais, donc les membres de la caravane, en fait la caravane est structurée par un ensemble de règles qui sont que la première, c'est que tout le monde est libre, mais que on ne doit pas mettre la caravane en danger. On est libre, on peut quitter la caravane quand on veut. Un personnage joueur qui me dirait, ben écoute, là j'ai envie de fonder une famille et d'abandonner la caravane, il le peut. Ou juste il veut quitter parce qu'il trouve que la caravane c'est que des fous, enfin ou que j'en sais rien, il est libre. Par contre, il ne faut pas ramener de danger à la caravane. Ouais. La deuxième, c'est que quand quelqu'un de la caravane est en danger, il faut l'aider. Alors attendez, je vais chercher exactement le reste, parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est grosso modo ça. En gros, quand quelqu'un de la caravane est en danger, il faut l'aider.
Ouais. Mais sans jamais attirer les ennuis sur la caravane.
C'est ça.
Ça c'est
primordial.
Parce que c'est ça, c'est facile d'aller aider ce petit gamin là qui est dans... Je parle hein, pendant que tu cherches.
Ouais, c'est ça.
C'est facile d'aller aider ce petit gamin qui était en prison. Mais attention, on vient d'arriver dans un petit village, on est en 1010 en France, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il y a une caravane de l'étrange avec des mecs bizarres qui débarquent.
La foi est hyper présente. Tout le monde croit en Dieu, tout le monde croit au diable.
D'ailleurs, c'est pour ça que je te disais qu'une des faiblesses du jeu, si c'est marqué dans le jeu que les...
Non, c'est pas marqué qu'ils sont athées. En fait, il n'y a rien dit à ce propos.
Voilà, et au cours des quelques courtes études d'histoire que j'ai pu faire, je sais que les gens de cette époque-là sont pas athées. Je pense que les PJ peuvent éventuellement le devenir au cours de la campagne et des différents scénarios.
En fait, je pense que la foi des PJ est laissée, enfin des personnages est laissée libre aux joueurs d'interprétation.
Après, athée ne veut pas dire pas athée ne veut pas dire catholique.
Ça peut être à mon avis, les gens de la caravane croient en Dieu ou en tout cas en un Dieu. Enfin, ils sont une preuve eux-mêmes de pouvoir surnaturel. Donc
tout à fait, mais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les règles de la caravane nous empêchent d'exercer pleinement la moralité qu'on aura en tant que joueur. C'est-à-dire qu'on doit prendre en compte les autres.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, libre, mais... si vous vous dites cet enfant, je veux le sauver parce que franchement, c'est vraiment abusé.
Voilà.
Ok, très bien. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on risque de soulever une tempête pour la caravane parce que on vient d'arriver et voilà, il se passe un problème quoi.
Et c'est ça. Et donc du coup, on est toujours pris dans ce... Il y a un espèce de dilemme entre le bien pour pour cet enfant ou pour la situation en fait que tu nous décris dans le village qu'on traverse, et le bien pour la continuité de notre aventure au sein de la caravane. C'est-à-dire jusqu'où on peut faire le bien en fait sans corrompre cette caravane.
Et là, il y a des choix très intéressants quand on joue en campagne. Des situations arrivent où des joueurs vont préférer se sacrifier. Ou quitter la caravane pour sauver quelqu'un, sauver quelque chose. Ils vont mettre quelque chose au-dessus de la caravane, quitte à la rejoindre plus tard. Et ça, c'est faisable. Vous auriez pu très bien décider de sauver ce gamin une fois que la caravane était partie, par exemple. En faisant partir la caravane un peu avant et faire une action de coup d'éclat pour sauver le gamin.
Je pensais aussi à aller sauver le gamin et s'en aller avec lui et se mettre sur le chemin aval de la caravane. Enfin,
c'est ça, ouais.
Alors moi,
plus loin.
En fait, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles.
Il y a plein de choses possibles, et surtout, il y a la possibilité de passe.
Oui.
C'est-à-dire le village. Ouais, ben non, moi je m'intéresse pas au truc, je fais mes petites fêtes, mes petites festivités, je passe mon tour. Et cette capacité de pouvoir passer son tour, c'est-à-dire de pouvoir oublier le scénar du MJ.
C'est inhabituel.
C'est un, inhabituel, et deux, source d'une grande moralité.
Ouais.
Parce que dans un jeu de rôle traditionnel, dans un rôle classique, on n'a pas le choix, on doit résoudre le scénar et donc on doit faire certains types d'actions. Comme on doit faire quelque chose au sens de devoir presque déterminé, on n'a pas ce choix qui nous fait la moralité, qui nous donne cette moralité. Natacha. Ouais.
Du coup, c'est par contre extrêmement déroutant quand justement on a l'habitude de se sentir obligé d'aller jusqu'au bout du scénario.
Moi, je crois que le jeu tripe autour de ça.
À un moment, assez tôt, j'ai demandé quel était le contrat social, qu'est-ce qu'on est censé faire, parce
mais
que c'est vrai que c'est
et
ça.
Et du coup, je te l'ai résumé en disant, c'est les règles de la caravane, le contrat social.
Ouais, ouais, exactement. Ça, j'ai beaucoup aimé.
Et
ouais,
ouais, mais ça, jusqu'au bout, tu te poses, enfin, en tout cas, je pense au premier scénar, jusqu'au bout, tu te poses la question de, mais ouais, mais en même temps, en tant que joueuse, j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans le village.
Et Natacha, ça fait partie du jeu.
Ça fait partie du jeu, mais c'est clair.
C'est même essentiel dans ce jeu, ça. Ouais. Et du coup, alors par contre,
le fait
pour,
le
MJ,
puisse,
ouais. pour le MJ,
oui, dès qu'on met le premier scénar, c'est dit, tu peux pas savoir ça. Enfin,
pour le MJ, c'est un problème.
Moi, je l'ai ressenti.
Pour le MJ, c'est un problème crucial, ça.
Félicitations.
C'est-à-dire qu'en fait, se trouver dans. En fait, si jamais tu crées un scénar où les joueurs vont pas se sentir impliqués, vont juste te dire dès le début, on s'en fout. Il faut aussi arriver à éviter la situation, enfin cette situation-là, parce que ça, dans ce cas-là, oui, ça veut dire ça, que ouais. t'as un scénar qui va durer 10 minutes. Enfin, ou peut-être une demi-heure, si tu veux, le temps qu'on discute un peu, tout ça. Et donc, en tant qu'MJ, il faut arriver à trouver des accroches pour les personnages des joueurs.
D'accord.
Des points d'intérêt. Et ça, moi, c'est ce qui m'a épuisé, en fait, à concevoir des scénarios de ce jeu-là. Ouais.
Ah, d'accord.
C'est pour ça qu'il faut des éléments, par exemple, de ton passé, qu'il faut faire intervenir des gens de la caravane qui vont créer des problèmes. Enfin, voilà, il y a vraiment...
Parce qu'à un moment donné, on est tenté de toujours passer, de jamais s'intéresser.
Est-ce que c'est comme dans Dogs ? Est-ce que c'est une structure où on est toujours censé arriver dans une ville ou un village ?
Non. Les scénarios peuvent être vraiment... Enfin, en fait, voilà, ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne vous ai pas fait jouer l'autre scénario. C'est que l'autre scénario se passait sans la caravane. Ah. En gros, dès le début, l'initié, vous voyez, vous disait « Bon, on a un vieil ami là-bas dans les bois qui faisait partie de la caravane. Allez le voir, demandez-lui s'il voudrait rejoindre la caravane à nouveau. »
D'accord.
Et du coup, ça se passait... ailleurs sans la caravane. Et je trouvais ça dommage de ne pas avoir la caravane avec soi.
Il peut arriver des crasses à la caravane, genre on se fait piquer un truc, il y a quelqu'un qui se
disparaît. Ça
peut être une bonne accroche par contre, pour le coup.
Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais.
Donc Natacha, t'as pas senti ça dans le scénar, cet aspect de dilemme du fait qu'on puisse passer notre tour
Bien sûr que si, mais...
C'est quoi alors que t'as pas ressenti
En fait, si tu veux, je me suis dit, est-ce que... Jusqu'à quel point c'est un de ces jeux où... Bah oui, en fait, c'est ça. En fait, dès le début du scénario, j'ai senti qu'on allait aller vers ça, vers le... mais finalement, la meilleure solution, c'est de ne rien faire.
D'accord.
Et je me suis dit, mais c'est ça, alors... un scénario qui peut durer une demi-heure, quoi.
Ouais.
Enfin...
Alors, vous auriez pu... Enfin, le scénario peut se résoudre, hein, vraiment. Enfin, c'est pas...
Alors là, on arrive à une autre faiblesse qui, à mon avis, n'est pas propre à Hurlement, mais qui est propre à beaucoup... Enfin, qui est propre à toute une flopée de jeux de rôle, et j'ai pas encore trouvé... un jeu qui la résolve. Bon.
Natacha,
c'est le moment où on a mené notre enquête. On a exploré toutes les pistes que en tant que joueur on arrive à percevoir. Et on se dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors.
Et on tourne en rond.
Alors pour la défense de Natacha, c'est possible que, en fait, le scénario il est écrit avec vraiment beaucoup de détails et tout. Et de façon très continue, il n'y a pas d'éléments qui sont mis en avant ou autre. Donc par exemple, moi quand je cherchais qu'est-ce que vous dit telle dame, quel genre d'indice elle peut vous donner, j'avais du mal à le trouver en direct, donc je me faisais avec ce que je souvenais. Donc c'est possible que j'ai oublié peut-être un ou deux éléments. Il me semble que non. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des personnages qui vont vous mentir. Ouais. Et du coup...
Ça, c'est le problème de tous les jeux à enquête. Ça, c'est... Tu mets une enquête dans un jeu de rôle, t'auras toujours le risque d'avoir ça.
Ouais. D'ailleurs, puisque Vivien est là, je vous invite à écouter le podcast qu'on a enregistré avec Steve et Chiryu sur Inspector, où à un moment donné, Chiryu qui nous fait un descriptif de tous les soucis qu'on trouve dans les jeux de rôle à enquête.
Ouais.
Et il est très exhaustif, je trouve, ce passage.
Ouais, clairement.
Moi, ce que je trouve, c'est que les soucis des jeux d'enquête, c'est aussi leur force, en fait, comme tu l'avais remarqué dans le scénario.
Ouais, mais moi, je suis désolée, mais... Enfin,
je suis d'accord.
Prendre le temps de se poser et réfléchir, bon, ok. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et j'ai l'impression que quand t'es MJ et que tu vois tes joueurs qui mais savent ouais, plus quoi faire, sais, qu'il y a des temps de silence, parce que
alors moi,
et ben à un moment donné il faut se poser la question de comment mettre du rythme. J'ai pas de solution hein, vraiment hein, mais
Duck in the Vineyards ou Demiurge qui va finir par sortir dans pas si longtemps normalement ont des règles très précises. Faites une liste de révélations et dès que ça bloque plus de 5 minutes vous balancez un truc quoi.
Mais en fait c'est ce que j'ai fait. C'était peut-être pas, ça vous a peut-être pas semblé très évident, mais en gros je vous ai décrit que le forgeron était un des premiers à rentrer au village. Et j'ai pas mal insisté là-dessus.
Tu l'as fait au début aussi. Oui. Lorsqu'on était bloqué, par exemple, tu nous as fait à un moment donné, on croise des passants qui parlent d'un truc.
Ouais.
Si tu, je trouve que t'as bien joué ça.
Il y a pas mal de pistes. Ouais. Non. En fait, grosso modo, les pistes que vous avez pas suffisamment enquêtées. En gros, c'est juste interroger avec les gens quelles sont les victimes.
Non, mais bien
par
sûr.
Exemple, l'élément crucial, c'était le premier meurtre. Le fait que ce soit la femme du forgeron qui se fasse tuer.
Ouais.
Le meurtre suivant a eu lieu 2 ans plus tard. Du coup, ce meurtre avait vraiment un jalon important. Donc vous êtes un peu passé à côté de ça. Et j'avais pas trop de moyens de vous guider dessus. Dans ta discussion contre le forgeron, j'ai fait faire quelques tests de détecter les mensonges.
D'accord.
Parce qu'il
mentait. Ah, il y a quand même des jets de.
Oui,
bien sûr. Justement.
Voilà pourquoi les dés sont une grande faiblesse du jeu de rôle.
Oui, je suis d'accord, Natacha.
Ça, c'était un sujet de podcast, ça, les dés dans le jeu de rôle.
Sur cet élément-là, je suis d'accord pour détecter le mensonge. Le problème. En fait, tu vois, Romaric m'aurait posé la question, est-ce qu'il est en train de me mentir? J'aurais dit oui.
D'accord, ouais.
Mais le problème, c'est qu'il était pas. En fait, il y avait aucune suspicion sur lui. Du coup, je voulais pas vous donner la réponse. Si
après, pour notre défense, à nous tous les 4 enquêteurs là, quand t'as dit, enfin moi, quand j'ai demandé s'il y avait des gens qu'on connaissait qui n'étaient pas venus au spectacle, et j'ai demandé si le Yann le machin était là, et que tu
je
m'as
t'ai dit, il est venu. Et il est reparti très vite.
Oui, mais pour moi très vite c'était le meurtre a eu lieu quand même avant qu'il rentre au village.
Ah d'accord. Alors ça c'était pas clair pour vous, excusez-moi. Ouais, non. OK, le meurtre a eu lieu en gros il y a un moment où il y a un spectacle à la caravane qui est un peu loin du village et à la fin du spectacle, les gens rentrent chez eux. Et après quelques gens aient avancé, quand ils sont quasiment au village, ils découvrent le corps d'une des femmes qui rentrait du spectacle, qui était rentrée avec le forgeron. Et qui est morte. Et du coup, à ce moment-là, il y a le cri de panique, mais effectivement, elle est morte après le spectacle et en rentrant du spectacle. Du coup, c'est peut-être si ça, c'était pas clair, effectivement.
C'était le forgeron, le métamorphe.
Non, le forgeron était le tueur, mais ce n'était pas un métamorphe.
D'accord, très bien.
Bon, alors, du coup, profite-en pour nous révéler.
Le forgeron, c'était quelqu'un de très colérique déjà, et sa femme n'a pas arrêté de, enfin, ne supportait pas qu'il ait une amante, ce qui est. Tout à fait respectable. Et il a fini par la buter.
D'accord, très bien.
Et dans sa sauvagerie, parce qu'il était à moitié taré, hein, il l'a complètement mutilé. Et pour son plus grand bonheur, parce qu'au final, on a cru que c'était une bête.
Et il y a pris goût.
Et en fait, alors c'est pas tout à fait ça. Après, il s'est mis à... Donc du coup, dans sa tête, il accusait sa femme... de ne plus l'aimer parce qu'il avait une amante alors qu'il aimait son amante de lui avoir fait que des enfants difformes.
C'est pour ça que je suis
et du coup
dogs, en fait.
Il accusait toutes les, enfin pour lui c'était ça les femmes les coupables, c'est les femmes qui étaient responsables du malheur de sa vie, et donc effectivement il s'est mis à buter des femmes, il y a pris goût.
Bon, moi, et le profil des victimes alors, si tu...
C'était des femmes.
Ok, oui, donc t'as raison, faut pas qu'on fasse du essayer parce que là c'est
voilà. Moi je voulais juste revenir un petit peu sur un truc, c'est qu'en fait on a deux difficultés en tant qu'enquêteur. Il y a l'enquête d'abord avec les mensonges, tout ça, ouais.
Qu'on
qui
ne
est
voit
coupable,
pas.
Etc. Qu'on ne voit pas en plus, qui rajoute quelque part une difficulté. Ouais, mais bon, comme tu disais, c'est aussi c'est tellement grotesque dans un jeu d'enquête de dire je fais un jet de mensonge, ah j'ai raté, ah bah
ouais,
il ment
ça,
pas.
Bah ouais, enfin, c'est... Okay, c'est tellement ridicule. Ouais, c'est...
Après, on peut toujours dire que quand un joueur demande un jet de mensonge, il fait le jet, et s'il rate, après, tu peux lui dire il ment pas. Ou
non,
il
mais
ment,
bien enfin, sûr, bien sûr. En fait, en général, dans ces jeux où les joueurs jettent les dés, je leur fais jeter d'avance.
Oui.
10 jets de perception et 10 jets de détecter les mensonges, et comme ça on est paré
de
pour
la suite. De toute façon, enfin, j'ai toujours trouvé l'idée des jets de mensonges un peu une absurdité, parce que les gens, à part s'ils savent très mal mentir et qu'ils se mettent à bredouiller, enfin, genre que c'est des gens normaux, si c'est des vrais psychopathes, etc., il n'y a pas de jets de mensonges à faire théoriquement, ils ont l'air convaincus. Le deuxième problème, par contre, c'est qu'en plus on est des étrangers, Alors c'est le problème de la plupart des jeux d'enquête, c'est-à-dire on est un peu extérieur au truc,
et ils vous font pas confiance de base,
et on est illégitime complètement à se balader.
Surtout en plus dans Hurlement où vous êtes même pas des flics, enfin vous êtes juste
des
troubadours.
C'est même pire que ça.
C'est pour ça
que
j'ai essayé de tourner mes questions, genre la commère curieuse, tu vois, ou compatissante. Ah oui, ça a dû être très dur quand vous pour vos enfants.
Exactement. Et du coup, je pense que c'est ce qui nous a, je pense que c'est ce qui nous a grave limité en fait dans nos. C'est pour ça qu'on s'est pas renseigné sur les victimes. C'est pour ça qu'on. Normalement, on aurait été des flics, on aurait posé toutes les questions.
Sur les victimes en demandant mais il y en a eu
oui,
beaucoup.
En fait là, j'avoue que c'est vraiment moi qui
est oui, je pense qu'on se sent
bien sûr,
illégitime
mais
et
bien
du coup
sûr.
On n'ose pas trop pousser en fait,
je suis vraiment d'accord avec Vivien, mais en même temps c'est ce qui a été pour moi une source de plaisir immense.
Ah, c'est vrai que toi Romaric,
il a
eu un moment où Romaric
a eu à méditer,
voilà, il est resté en transe à dire je réfléchis, laissez-moi deux minutes.
Après
qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas,
la question que j'avais posée c'est du coup tous les scénarios ne sont pas des scénarios d'enquête.
Non,
forcément.
Non, pas forcément. Mais c'est compliqué de faire un scénar de. Enfin, je sais, je peux pas vraiment.
Ça, c'est un peu des travers finalement du jeu de rôle, notamment un petit peu sans système dédié, c'est qu'on a très facilement tendance à se tourner vers l'enquête de toute façon, parce qu'on considère qu'un bon scénar, c'est un scénar enquête en fait.
En tout cas, où il y a des choses
moi,
à découvrir.
Compris,
en
fait, j'avais cru comprendre qu'il y allait y avoir pas mal de choses qui allaient tourner autour
de la caravane.
Des relations entre les gens de la caravane, et je me disais ça peut être
alors oui.
Un scénario basé sur le relationnel est quand même plus intéressant, un peu à la Blistage finalement.
Et c'est pour ça que pour un moment j'essayais de voir si je pouvais pas rapprocher mon personnage de Blanche parce que je voulais essayer d'étoffer les relations avec
les. Ça. Par contre, du coup, créer des liens dans une caravane où personne n'a envie de parler, ça devient difficile à un moment donné.
C'est pas vrai. Il y a deux personnages qui sont du genre timides. Après, les autres sont.
Mais après, de toute façon, quand on commence à lancer une enquête, en fait, on tue un petit peu la perspective de développer. En fait, il faudrait qu'il n'y ait pas de scénario. Le problème, c'est qu'à finalement beaucoup de gens considèrent que s'il n'y a pas ça.
Pour une campagne à venir,
En fait, ça c'est quelque chose qui se construit sur la campagne.
Oui,
le premier scénario, forcément, c'est compliqué.
Le premier scénario doit
être. Parce qu'après, plus on avance. Plus la première partie qui est la vie de la caravane avant le début du scénario est importante, et après dans les scénarios au fur et à mesure les autres personnages deviennent importants, c'est-à-dire par exemple quand vous avez besoin de quelqu'un pour s'infiltrer quelque part, ben vous allez voir le gars qui peut se transformer en rat, vous lui demandez, il vous dit ouais non mais ça suffit, je suis pas à tes ordres, faut qu'il me paye un coup à boire, et du coup tu te mets à faire vivre la caravane. Par exemple, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pensé le faire en fait à la fin du spectacle, vu que j'ai vu que ça redescendait, j'ai voulu relancer en mettant un meurtre aussitôt. Mais je me disais que si je le faisais pas, je comptais faire venir Lambert, à qui t'avais une faveur à rendre, et que du coup il allait te proposer un truc débile. Enfin voilà, je comptais faire une petite scène de vie autour de ça. Mais
ouais, parce qu'à un moment pour nous débarrasser d'un PNJ un peu gênant, on l'a mis dans les pattes d'un
Charles, un gosse un peu turbulent qui veut toujours nous suivre partout. Hey, vous m'emmenez avec moi, vous m'emmenez avec vous. Vite, je veux venir. Alors que nous, on sait qu'on doit être discret, qu'on doit enquêter en marchant sur des œufs. Et là,
ça peut être dangereux.
Voilà, donc du coup
on l'a collé littéralement dans les pattes de Lambert, mon mentor
Lambert.
Lou, un peu colérique, histoire que ça lui fasse un peu les pattes à Charles.
Et du coup, je me rends compte qu'on n'a pas parlé de la fiction, de ce qui s'est passé.
Oui, justement, alors j'ai noté tout ça. T'inquiète, j'ai une série de questions, mais je voulais vous laisser finir sur tout ça.
D'accord.
Alors, premièrement, en vous écoutant, on a l'impression que l'enquête est ratée, que le scénario est raté, etc. Moi, j'ai pris mon pied, vraiment. Alors, en vous écoutant, c'est pas évident pour un auditeur. Alors, toi, c'est pas le cas, Natacha, t'as pas aimé
Non, c'est. Enfin, oui, l'enquête est ratée, mais ça veut pas dire que le scénario est raté. Fin...
Non, ce que je veux dire, non, d'accord. La partie.
Le ressenti
pas satisfaisant.
Du succès de la. Enfin,
Voilà, on a l'impression. Alors que moi, en fait, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié d'avoir ces dilemmes et ces questionnements autour de. Et l'enquête, moi, j'ai prise dans la gueule. J'ai vraiment voulu chercher qui avait fait quoi.
Bien sûr.
En un minimum de coups. C'est-à-dire jouer en un minimum de coups. Poser un minimum de questions et trouver immédiatement.
Ah d'accord, c'est pour ça que tu réfléchissais autant.
Oui, pourquoi ? Parce que plus on pose de questions,
on avait que deux jours,
plus on est suspect. En plus, on n'a que deux jours. Donc, dans ma tête, c'était clair. L'enjeu, c'était de résoudre l'enquête en posant le moins de questions et de façon à ce que la caravane paraisse la moins suspecte possible.
Okay.
Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai essayé de jouer.
Non, mais moi, je me suis vraiment amusé.
Petit côté Death Note.
Et le...
Petit côté Sherlock Holmes, surtout.
Ouais. Oui.
En combien de coups Sherlock aurait-il résolu cette énigme?
Complètement.
On n'a pas les 100 points, là, je pense.
Ouais. Complètement.
Non, je crois pas.
Donc, au cours de cette histoire, il s'est passé quelque chose d'assez invraisemblable. C'est-à-dire qu'au moment où on était en train d'enquêter sur tout ça, on a été visiter des différents lieux un peu intrigants que tu nous avais mis sur le plan. Le lavoir, le cœur du village, la petite maison abandonnée dans la forêt. voilà, vraiment, il y avait un moment donné, ça fait un plan.
La clairière où la bête a été capturée.
La clairière étrange, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un côté rendez-vous à tel endroit. Et voilà, le MJ avait bien souligné, là, il y a un truc à voir, là, il y a un truc à voir, ouais. etc. Et au cours de cette exploration du bac à sable, il nous arrivait un truc assez fameux. C'est-à-dire qu'on est tombé sur...
épique, quoi.
On est tombé sur deux bûcherons, en
fait. Hansel et Gretel, je crois. Non,
une des
pas
fausses
ça.
Pistes du scénario. C'est il y a deux bûcherons un peu neuneux, super musclés, super antisocial, agressifs et tout, qui vivent dans les bois.
Mmh. Et, ouais.
Et les joueurs sont arrivés là-bas. Je vous en prie, racontez, parce que je préfère vous laisser.
Voilà, il y a pas.
Alors, on a frappé les mecs.
On n'a pas
agressifs.
Frappé les mecs, non.
On a frappé, les mecs se sont montrés agressifs. On a préféré repartir. Et histoire d'utiliser mon odorat de loup pour s'assurer.
Alors, et là, étrangement, on repart,
on s'éloigne de la cabane. Discussion de débrief, on va dire, entre
le
les
MJ
PJ.
Le MJ jette 4 séries de dés derrière son tableau.
Voilà, mais on continue à discuter. Et donc le personnage de Jérôme dit, moi je pense que je vais pouvoir utiliser mon odorat de loup pour en apprendre plus.
Ouais, et Vivien était d'accord avec moi.
Voir si là-bas il y a des odeurs particulières.
Voilà. Sauf que le personnage de Romaric est le mien, on n'était pas trop d'accord. Parce que ça pouvait être dangereux, parce qu'il y avait des humains normaux.
Ouais, mais comme je l'ai dit,
et
le personnage était trop vieille, et toi, Mike, était trop jeune.
Je me suis éhontément fait insulter.
On s'est fait bâcher, mais alors un truc de fou, quoi. C'est-à-dire, toi, t'es trop vieille, toi, t'es trop jeune, toi. Donc, c'est moi qui ai raison, et je me change en loup, et je vous emmerde.
Il se change en loup, et là.
Et là, c'est le drame.
Et là
ça sent le fait d'hiver.
Un bûcheron qui les avait suivis, parce que les gars qui se pointent, qui disent, qu'est-ce que vous faites là? On se balade.
Ah, c'était génial. Il jouait mais merveilleusement.
Et
bien,
là, il prend ça, frérot. Du coup, il se jette dessus avec sa hache. Et une situation qui commence avec une hache et un loup, en général, ça finit mal.
Mais non, mais même pas.
C'est vrai.
Non, le loup,
moi, j'arrive à fuir.
Le loup arrive à fuir. Ouais, le loup part en courant pour le semer. Ouais. Nous, on se dit, avec Omar, on se dit, on va partir dans la direction opposée. On va, voilà. Intervient Vivien.
Vivien, je sais pas ce qu'il lui prend.
Épique moment.
Alors, attention.
Le moment Vivien, c'est-à-dire le moment où il se dit Zidane, qu'est-ce qu'il a fait Zidane au cours de sa dernière Coupe du Monde?
What would Zidane do?
What would Zidane do? Et là, c'est le drame. Il se dit coup de boule. Et alors, ce qui est intéressant,
What would a stag do?
Exactement, c'est ça en fait. C'est il a imaginé ce que son personnage en tant que cerf ferait pour se défendre. Ouais. Ça, c'était bien
y
vu.
Y compris sous forme humanoïde, ce qui n'est pas forcément optimal.
Très bien trouvé.
Donc, effectivement, a foncé dans le bide du gros bourrin, la tête la première.
Mais c'est vrai que sur le coup, Vivien, on s'est dit, mais pourquoi il lui met un coup de boule? Et au final, on se dit, ah oui, c'est vrai. C'est un cerf. Et d'ailleurs, je lui ai demandé à ce moment-là, je t'ai dit, mais t'es en cerf ou pas? Et il me dit, non, je suis un. C'était énorme. C'était vraiment énorme. Et donc, du coup, ça a fini en massacre. Ouais.
Ah, le loup est revenu.
Le loup qui se dit, on se bat sans moi. Bon, je reviens.
Voilà. Donc, on a commencé à se battre. J'ai réussi à lui prendre sa hache. Le loup l'a pris à la gorge, puis au pied. Et finalement, j'ai essayé de l'assommer. Je lui ai fracassé le crâne à coup de...
Arrive le deuxième frère.
À ce moment-là, arrive le deuxième frère.
Frérot, tout.
Là, le loup dit non, c'est bon, on se bat pas cette fois, on se casse. Donc je lui dis attends, c'est dangereux. Bon, il me tire par la cheville, donc on se casse. Sauf que le
MJ fait son petit jet de course derrière l'écran.
C'est ça, voilà. Le bûcheron me rattrape.
Et là,
du coup, je ressors la hache et je commence à me battre. Le loup fait demi-tour et revient. Et le bûcheron finit avec une hache plantée au milieu du front.
Alors là, il y a eu un petit après cette scène incroyable et épique slasher, il y a eu un peu un moment un peu de dubitatif, c'est-à-dire que vous d'un côté, vous rigoliez comme des oufs, parce que vous dites, mais on a fait n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils sont revenus. Et nous, avec Natacha, en fait, on savait juste à ce moment-là, on savait plus comment interpréter nos personnages.
Vous saviez, ils se sont battus, on sait pas comment ça s'est fini.
Ouais, voilà. On savait plus si on devait jouer les PJ, revenir en arrière pour les aider, ou alors, au contraire, essayer de s'éclipser pour dire, bah, on se met à l'abri, mais en même temps, quel genre de sentiment on éprouve pour eux, d'autant plus que moi en plus je les connais depuis à peu près 3 quarts d'heure et demi.
Deux trois jours.
Non mais c'est ça, c'est-à-dire que je suis novice, donc voilà.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça, parce que moi je les connais depuis un peu plus longtemps.
Mais c'est pour ça aussi que j'ai dit non, on leur fait confiance, c'est pas grave. Enfin, moi j'étais dans ma tête, je pensais, mais j'en ai rien à foutre, ils meurent, c'est pas mon problème, quoi. Enfin, j'étais très égoïste au final là-dessus, mais bon, voilà. Donc il y a eu un petit moment de flottement. Mais bon, il y a un moment donné, bon, ils sont revenus à la caravane.
Ouais,
ça nous a permis de faire un petit débrief et de.
Je crois qu'ils ont plus ou moins maquillé leur.
Ouais, plus ou moins. Oui, ils ont mis les deux frères face à face, du genre, ouais, ils se sont fait un combat à l'âge, ils ont perdu tous les deux.
On a quand même bien.
C'était crédible, pas possible.
Double KO!
Surtout qu'il y en a un qui avait une démorsure de loup au niveau du visage.
Une morsure de loup.
C'est ça.
C'est vrai. Oui, exact.
Mais... Oh, ceci dit, on a quand même bien insisté sur le fait qu'on était mal et qu'on n'était pas débouchés de voilà, nature. On n'a pas fouillé les cadavres des bûcherons pour leur piquer leur or. Attention, ça ne s'est pas changé en parodie de Donjons et Dragons.
Oui, hein. Voilà, c'est ça. C'est
oui, bien sûr. Ils ont beaucoup culpabilisé. C'est ça aussi qui fait la force de cette scène, c'est que. Ça c'est vraiment l'accident bête, quoi. Le non mais vraiment
la
quoi.
Chienne Lolita.
Bon, les joueurs étaient morts de rire, ça on est
non,
d'accord
mais, forcément
ça, qu'est-ce que tu veux y faire
forcément
quoi. Enfin ça tournait au slasher alors que vraiment
mais et honnêtement quand le combat a commencé moi j'ai vraiment cru que j'allais te tuer quoi. Il avait une hache, t'étais à main nue
avec quelque part là pour
pas,
le coup, on a vu aussi le système, le fait de tirer les dés derrière l'écran.
Ouais.
Ah ouais non mais
je sais pas, ajouter
tellement
un petit quelque
peur
chose,
pour ton personnage mais
Enfin, et ça m'aurait pas choqué, je veux dire, finalement, de mourir quelque part, ouais. Parce que
tu l'aurais mérité.
L'ambiance est posée, je veux dire, on est dans un médiéval réaliste, ouais. 1010, etc. On sent bien que nos persos, ils ont quand même pas, enfin voilà, que c'est pas des demi-dieux du combat. Ouais. On n'a pas de feuille de perso, donc on peut pas dire, ah, j'ai mis 10 points en ouais. baston.
Est-ce que vous vouliez revenir sur certaines choses dans ce scénario. Moi, j'ai plein de choses à dire. Hein. J'ai pris plein de notes, mais est-ce que vous, il y a des choses sur lesquelles vous voudriez revenir?
Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, à savoir, est-ce que ça a été un scénario raté dans le sens une partie ratée?
Ouais.
Non, effectivement, ça n'a pas été une partie ratée. Pris beaucoup de plaisir. Effectivement, il y a eu un petit moment de mou à un moment qui est moins agréable, mais ça, hélas, les scénarios enquête,
ça arrive
voilà.
Souvent, ouais.
Je veux dire, j'ai pris un vrai plaisir qui m'a rappelé d'ailleurs quelque part un petit peu le genre de, enfin voilà, le jeu traditionnel aussi sur certains
ben
points.
Oui.
C'est le genre de conneries qu'on a fait, mais dans combien de scénarios de jeux de rôle, voilà, on essaye de faire un truc, puis ça foire, ça devient une catastrophe, une boucherie, alors que c'était pas du tout le but du départ. Juste sur des jets ratés, et finalement, ça aussi, c'est un plaisir de jeu de rôle, voilà, qui peut manquer quand on fait un peu trop de jeux, on va dire, plus carrés, au niveau de la maîtrise des conséquences, quoi.
Ouais, je plus vois, parce que moi, je ne joue quasiment plus du tout à des jeux classiques ou dans ce genre-là, et ça m'a quand même bien fait marrer de retrouver cette ambiance.
C'est vrai que t'as quand même 6 tables de sens, donc c'est vrai que côté JDR classique.
Oui, non, mais à sens, on s'amuse pas à faire classique. Des massacres sur une erreur à cause d'un jet de dés.
Oui, d'accord.
Déjà, il n'y a pas, il y a rarement des erreurs.
Mais attention à ne pas confondre jeu de rôle classique et,
ouais.
tu vois, et jeu de rôle à papa. C'est-à-dire que.
Ah.
Eh oui, parce qu'il y a des jeux de
disons
rôle classique.
Disons des vieux jeux.
D'accord.
Des jeux à papy.
Des vieux.
Jeux 1989.
Par contre, ça va, 1989 c'est une excellente année d'abord. par contre, non, moi le plaisir que j'ai retrouvé, et j'y pensais cet après-midi en attendant avec impatience la partie de ce soir, c'est putain, mais je me referais tellement bien une bonne campagne de jeu à secret en tant que joueuse. Enfin, ça me manque vraiment, mais bon.
Alors là vrai, effectivement, moi je sais pas pour le jeu en campagne... J'en sais rien. C'est le côté en fait personnage défini en deux traits dès le début. Peut-être que ça me limiterait. J'en sais rien.
J'aimerais vraiment bien faire une campagne de jeu. Je pense
peut-être,
que ça va loin.
Ouais.
Je
sais pas.
Il faudrait
voir ce que ça pourrait donner.
Je sens le jeu qui va très très loin. Alors c'est un jeu qui a une particularité que partagent certains jeux de Thomas Meunier, mais également aussi Sens. C'est cette absence de contrat social qui fait finalement partie du système de jeu. Et moi, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu dans ce podcast parce que c'est très intéressant, ça. Est-ce que l'absence, selon vous, est-ce que l'absence du contrat social, donc je pense qu'autour de la table et à peu près parmi les auditeurs de la cellule, maintenant les gens connaissent ce concept.
Il y a un truc que j'aimerais trouver.
Juste pose ma question, puis comme ça je te laisse le temps de retrouver. C'est est-ce que l'absence de contrat social peut finalement faire l'objet d'un système de jeu de rôle ? Est-ce que finalement, il n'y a pas des jeux de rôle dont c'est totalement le propos. Et moi, je pense notamment à Sens. Je pense à S'échapper des faubourgs. Exactement, de Thomas Munier.
J'adore. Moi, franchement, ce jeu a été une vraie claque pour moi.
Ouais. C'est... Alors après, on peut critiquer sa mise en page. Il paraît qu'à lire, c'est peu compréhensible.
C'est Thomas. Mais il le dit clairement dans le podcast. Il a voulu faire un jeu hermétique.
Ouais.
Et au final,
parce que nous, on y a joué avec Fly et avec lui, il nous a expliqué des règles.
Avec
ça,
son note d'intention qu'il dit dans le podcast que vous avez enregistré, c'est totalement cohérent en fait.
D'accord.
Moi, j'ai écouté le podcast avant de lire le bouquin, et je me suis dit, oh, ah, mais non seulement il le dit, mais en plus il le fait, c'est complètement hermétique. Faut y aller pour y rentrer dans S'échapper des faubourgs.
Ouais. Donc là, tu vois, c'est encore un jeu. Alors, et puis maintenant, tu voulais ajouter quelque chose sur S'échapper des faubourgs, Vivien. Et maintenant, bah, j'en ajoute un troisième, c'est Hurlement. Qui, à mon avis, masque totalement son contrat social. On ne sait pas vraiment quel est le rôle du veneur, on ne sait pas très bien ce que c'est que le rôle de l'initié. D'ailleurs, Natacha me faisait remarquer au cours de cette partie qui a écrit sur l'écran Hurlement, le jeu de l'initié. Très intéressant, un petit indice chez vous. Y a plein de petites choses comme ça à glaner. On sent que c'est un jeu dans lequel le contrat social va subir quelques torsions.
Alors, subir quelques torsions, je ne sais pas. En tout cas, je dirais que comprendre le contrat social, c'est finir le jeu quasiment. Enfin, j'exagère, mais il y a un petit peu de ça.
Alors, Natacha, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Alors, y a un truc qu'il faut savoir.
Je voulais juste. J'ai l'impression que c'est plus compliqué qu'un contrat social finalement flou, parce que je le trouve plus précis que bien des jeux, je vais encore dire traditionnel, mais enfin voilà, parce qu'on a quand même cette liste de lois de la caravane qui pose quand même clairement un petit peu les enjeux. Ça va être protéger la caravane. On sait déjà plus ou moins quel type de scénario il va y avoir. Mm-hmm. On sait aussi quel type de personnage on joue quand même, malgré tout, un métamorphe dans une société qui a priori va le considérer comme un démon, etc. Mm-hmm. Par contre, après, il y a des profondeurs supplémentaires derrière. On peut creuser ce contrat social, voilà. Mais au départ, il est quand même bien défini, quoi, malgré tout, sur des points, quoi. C'est juste qu'il laisse de la profondeur.
Il laisse de l'ouverture. En fait. C'est
un
contrat
social
ouvert. D'accord, c'est ça. Mais malgré tout, bien défini. Contrairement à un jeu dans lequel il n'y aurait pas du tout de contrat social.
Mm-hmm.
Et ça, je voulais y venir parce que c'est souvent une ligne de défense des gens qui veulent soutenir que justement certains jeux ont un système qui est trop prégnant. Certains MJ, certains meneurs de jeux de rôle classiques, aime le jeu de rôle traditionnel parce que justement le contrat social est ouvert et permet en fait finalement de trouver une forme d'harmonie autour de la table entre des gens qui ont des attentes très différentes et c'est ça qu'ils aiment dans le jeu de rôle. C'est que des gens avec des attentes très différentes finalement se trouvent obligés de communiquer entre eux, de se laisser parler, de s'apprécier les uns les autres. En gros, ils trouvent que le jeu de rôle a une vertu de rassemblement des contraires et donc une vertu politique, sociale, etc.
Parce que
les joueurs sont obligés de faire émerger un contrat social, tu vois, qui n'est pas imposé depuis le dessus par un auteur.
Je vois ce que tu veux dire, mais dans Hurlement, il y a quand même plein de choses qui ne peuvent pas avoir lieu. Par exemple, jouer un gros bourrin, c'est pas du tout...
C'est pas possible. C'est pas canon quoi.
En gros, le contrat social de ce jeu, c'est que c'est un jeu à secret. Quand tu viens ici, tu viens pour découvrir les secrets. Ça, c'est pour moi, c'est un des éléments essentiels.
Bien sûr.
Et du coup, tu viens curieux. Mmh. Et du coup, tu viens pour apprendre les secrets.
Et donc, du coup, ça peut être aussi un moteur pour les scénarios d'ailleurs. Pour les enquêtes, pour ce qui se passe au village.
Oui.
Parce que tu peux pas passer à chaque fois.
Oui.
À un moment donné, tu vas te dire attends, si je passe tout le temps, je vais jamais découvrir les secrets. Non, mais c'est vrai.
Et donc,
du coup, tu vas être obligé de participer à l'histoire.
J'aimerais vous révéler les secrets.
Non.
J'aimerais, s'il y a tellement de choses à dire dessus.
Ah bon?
Ah ouais, mais bon, tant pis.
Mais non, mais je pense que cette parole-là...
Remarque, tu te retrouves avec le dilemme que j'ai moi-même, c'est putain, mais j'ai tellement envie à la fois de le jouer, donc de pas savoir les secrets, et en même temps, je me dis, mais qui est-ce qui va pouvoir me le faire jouer
Quand je reviens, de temps en temps, on se fait une partie.
On se fait une petite partie du règlement.
Putain, ouais.
C'est ça, quand je reviens.
Ouais.
Le scénario était complètement un scénario d'introduction, là, si j'ai bien compris. Il n'y a pas possibilité d'apprendre des secrets dans ce scénario, là ?
Dans ce scénario, non.
D'accord, je me posais la question.
En fait, la plupart des scénarios, il n'y aura pas de secrets à apprendre la plupart du temps. Enfin, ou très peu. Enfin, en général, ça va être... Je vous dis rien.
Attention et puis, ton micro.
Je vous dis rien. Et puis tout d'un coup, je vais faire un scénario où il y a un secret.
Ouais,
et vous allez peut-être pas le comprendre, ou peut-être qu'il va juste passer comme ça. Mais ouais, il faut le mettre de temps en temps.
Je pense que du coup, je vais me spoiler sur les secrets parce que j'ai pas envie de le jouer du coup.
Très bien.
Bah, du coup, c'est pas le genre de jeu que j'aime. Je dis pas que c'est mal ou quoi, mais ça me rappelle trop X-Files où j'attendais pendant 20 épisodes que la
question série avance. Est-ce que je spoil les auditeurs ou pas?
C'est peut-être un peu tôt là, non ?
Je sais pas.
Les auditeurs et nous aussi, du coup.
Ouais. Alors non, parce que je peux vous dire, vous partez, je raconte ça à monsieur.
Romaric, tu peux te permettre de quitter la pièce ?
Non, parce que Romaric, il devra écouter le podcast après
pour le monter.
Ah ouais, putain.
Et il va entendre.
Donc, je pense que ça sert à rien.
De toute façon, le mieux pour vendre un jeu à secret,
c'est de ne rien dire
et de leur faire miroiter les secrets qu'il y a.
Alors justement, à propos de le vendre, Adrien, tu disais qu'il y avait des problèmes pour le trouver.
Alors oui, effectivement, pour le vendre, moi je l'ai acheté sur eBay. Il y a 4 ans, un truc comme ça, et j'ai vraiment galéré pour le trouver. Vraiment. Hein. Ça se vend plus, c'est plus édité. Il existe des PDF à des endroits pas légaux. Voilà, je vous encourage pas forcément à aller les récupérer, mais voilà.
Je vois que tu as l'écran et tu as trouvé un lot, en fait.
L'écran, les deux bouquins sont vendus. En fait, la base, c'est l'écran, les deux petits bouquins que j'ai ici et la boîte dans laquelle ils sont rangés.
C'est bien, d'accord. Je me suis posé la question, en fait.
Il y a la boîte aussi.
Ah, c'est parce que c'est vraiment beau, hein, faut le dire.
Dedans, j'ai rangé d'autres trucs.
Mais... C'est noir avec du doré.
Noir et doré. C'est vraiment un jeu qui est très très mystérieux. Ça m'intrigue au plus haut point, ce jeu. Ouais. Moi, j'ai pas envie de me faire spoiler.
C'est
honnêtement,
pour ça que je l'ai acheté. Hein.
J'ai vraiment pas.
C'est aussi pour ça que je suis pas tombé sur Sens par hasard.
Oui, je comprends. Ouais. C'est sûr. Vivien, t'avais envie d'ajouter quelque chose ?
Non, rien. C'était juste surenchérir sur la qualité de la boîte, mais ça, c'était. C'est des belles boîtes comme on en faisait dans le temps, pas cher. Voilà, avec tout ce qu'il fallait pour jouer.
La qualité des suppléments est chaotique. Enfin, le style des livrets.
Non, ça, mais c'est des suppléments comme on les faisait dans le temps.
Pas la qualité, mais le style des livrets change.
Un bon vieux supplément des familles.
Voilà, c'est ça.
Là, j'ai le livret numéro 1, livret numéro 2. Le numéro 3 ressemble à cela. Le numéro 4 change. Le numéro 5, il est en format paysage. Le numéro 6, enfin voilà, ça change du tout au tout.
Bon, ça, c'est pas grave.
Mais ils l'ont vraiment fait au fur et à mesure que, ils avaient de la demande ou de l'argent ou je sais pas.
D'accord.
En fait, au début, ça compte systématiquement par des lettres de remerciement aux fans ou autres. C'est assez. Ouais.
Et les illustrations d'intérieur, elles sont comment ?
Elles sont plutôt pas mal. C'est des trucs crayonnés, noir et blanc, que je peux pas vous montrer pour la plupart. Non, regarde, voilà, c'est ce style-là. Donc, des dessins de maison, de champs.
C'est bien au-dessus de la moyenne de l'époque.
J'ai l'impression que Hurlement, c'était le sens des années 1989, quoi.
Ouais, je pense que c'est un jeu qui a vraiment eu énormément de succès et qui a été beaucoup joué. Hein.
Mais je pensais pas à ça, mais par rapport à la communauté et tout, je pense qu'il y a eu des forums sur lesquels il y a eu pas mal de mecs à débattre sur les débats et tout ça.
Bien sûr.
Aujourd'hui, il n'y a pas de traces de ça. T'as fait des recherches là-dessus.
En 1989, ils étaient pas très
développés. J'avais parcouru
quoi.
Un petit peu des forums.
Non, mais tu sais, des trucs sur Casus. Il devait y avoir des oui, c'est vrai qu'il devait y avoir
des courriers des lecteurs.
Comment ça se faisait, du coup, si
tu as lu Hurlement, contacte-moi au.
Il faudra qu'on fasse un podcast là-dessus, d'ailleurs, sur comment ça se passait.
Sur les années avant Internet.
J'ai un extrait d'un. Enfin, j'ai deux pages issues d'un magazine que je sais même plus où je les ai trouvées. Ils parlent de Hurlement, enfin voilà, mais.
C'est curieux. J'ai une dernière
question. C'est de l'archéologie holistique.
J'ai une dernière question d'ouverture de podcast pour faire un petit tour de table là-dessus parce que. Comme tous les jeux de rôle que j'aime, ce jeu est à cheval entre deux types de propositions créatives et j'ai bien du mal à me positionner par rapport à la proposition créative de Hurlement. Est-ce que selon vous, la proposition créative est simulationniste ou est-ce qu'elle est narrativiste ? Jérôme, oh !
Les deux.
Eh ben oui, pour moi, c'est comme Polaris de Ben Lehman, c'est excessivement difficile de trancher en fait.
Bien sûr.
Il y a des moments qui sont clairement sim. Je donne un exemple. Par exemple, les moments où Vivien décide de donner son coup de boule parce qu'il est un cerf, par exemple, c'est totalement simulationniste dans la mesure où il crée de la fiction en vertu de la couleur de son animal. De la même manière que quand moi, je prends ma grosse voix de serpent, enfin ma petite voix de serpent pour interroger une grand-mère ou un truc comme ça, c'est totalement simulationniste parce que j'applique la couleur du serpent à mon personnage et j'essaye de jouer au maximum. Mais en même temps, cette dimension de choisir si on est un héros, enfin, de choisir son héroïsme.
Du coup, je pense que c'est narrativiste. C'est plus narrativiste que simulationniste, j'ai l'impression.
Ah,
j'ai l'impression. Je suis pas un grand expert, mais j'ai l'impression qu'il y a, on peut échapper vaguement au simulationnisme. Un peu comme moi qui, enfin, j'ai pas eu l'impression de trop me faire toucher par ça. Par contre, le narrativisme, j'étais dedans de toute façon. J'étais dans le dilemme, j'étais dans, oh là là, les deux bûcherons, j'espère que ça va pas avoir de répercussions sur la caravane ou sur moi. Et si ça en avait que sur moi et pas sur la caravane, est-ce que je m'en, enfin.
Cette sensation que rien n'est scripté aussi au village. On aurait pu faire n'importe quoi. On pouvait tuer Conan, quoi. Conan, c'est le bourgmestre. On aurait pu tout faire, quoi.
Alors, Conan, le, en fait, le.
Adrien.
Ouais, non, je vais rien vous dire. Oui, vous auriez pu. Vous auriez pu. C'est.
Enfin, on a la... En tout cas, oui, je ne sais pas si on aurait pu, mais on a grave la sensation en tant que joueur qu'on peut tout faire.
Donc, alors que vous pouvez décider de tout essayer.
Voilà, de tout essayer, de tout.
Parce qu'après, quand même, s'attaquer à un chef de ville, enfin, un seigneur de village qui a des gardes armés avec lui, c'est pas. Enfin, voilà. Y a...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que on est moral, enfin, on est des personnages moraux dans la mesure où on a la possibilité de faire ou de ne pas faire. D'être héroïque ou de ne pas être héroïque. Et ici, dans Hurlements, pour moi, c'est clairement le cas. On a la possibilité d'être héroïque ou pas. Et donc, pour moi, on a totalement le contrôle de l'histoire.
Le fait aussi que ce soit un jeu historique, c'est-à-dire qu'il essaye de se calquer à la réalité historique de 2010.
Ça pousse au simulationnisme un petit peu. Parce que du coup, tu dois respecter la couleur.
Bien sûr,
oui, tu dois respecter le canon esthétique de 2010.
En gros, moi, quand je crée un scénar en général de ce jeu, je vais sur Wikipédia. Ouais. Je regarde, par exemple, mettons votre prochain scénar, il se passera peut-être en 1001, en 1011. Mm-hmm. Donc je vais année 1011 et je regarde qu'est-ce qui s'est passé en France en 1011. Et je vois, par exemple, je sais pas, moi, il y a eu le mariage de tel seigneur à tel machin. Du coup, je dis, ils ont sans doute eu besoin d'une caravane pour fêter le mariage.
On y va.
Du coup, je vois le village, la ville en question, je me dis. Qu'est-ce qui a pu se passer là? Je regarde un petit peu, genre géopolitique. S'il y a deux gars en guerre, bah, il y a peut-être eu la guerre en ce moment. Voilà. Donc, et puis voilà, de fil en aiguille, je pars de faits historiques. Donc là, par exemple, dans
scénario, ton canevas. Voilà.
J'aimerais quand même souligner quelque chose parce
Jérôme.
Que j'ai beaucoup discuté de toutes ces choses-là pendant des mois, voire même des années avec Fred Sintès, pour arriver à la conclusion qu'en fait, ça sert à rien de se poser ces questions. Franchement, on s'en fout. Surtout que le GNS, maintenant, même à la forge, on l'a lâché pour d'autres modèles.
Bien sûr, bien sûr.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est de dire, en fait, alors, je suis d'accord avec toi, Jérôme, qu'on en a rien à battre de savoir si c'est du lard ou du cochon.
En gros, ta question était nulle.
Le développement que ça permet de suivre derrière, c'est vrai que c'est intéressant.
Voilà, c'est ce que je voudrais souligner.
Le développement, c'est un équilibre entre deux trucs. Du coup,
ça peut plaire. C'est ça, parce que le but, quand même, aussi de ces podcasts, c'est d'être pas un guide d'achat, mais à qui ça va plaire, c'est ça.
Et moi, je pense guide d'achat sur les jeux indisponibles de 1989.
Je pense que suite à ce podcast, il y a des tas de mecs qui ont hurlement dans leur bibliothèque, parce qu'il faut voir que le rôliste aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans sa bibliothèque
et
qui ne s'en sert jamais.
C'est une autre époque.
Si vous avez hurlement dans votre bibliothèque et que vous n'en savez pas, envoyez-le moi.
Mettez-le sur eBay, donnez-le à vos gosses.
Par contre,
c'est aussi une question d'histoire du jeu de rôle. Je pense que c'est un jalon important, notamment de l'histoire française du jeu de rôle.
Pour moi, c'est un monument. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup influencé comme jeu.
Juste pour cette histoire, sans revenir sur les histoires de narrativistes, etc. Ce qui est effectivement très bien dans ce jeu, c'est qu'il part dès le départ, il pose des bases nécessaires à des dilemmes moraux, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas quatre aventuriers qui partons de ville en ville résoudre les torts. Parce que là, bon, on est une famille avec des responsabilités, des liens. On peut aller de ville en ville parce qu'on est dans une caravane, mais pour autant, on trimballe notre famille avec nous, donc on a des responsabilités, donc nécessairement, il va y avoir des problèmes, tous nos actes auront des conséquences, etc.
Jérôme,
je vais rajouter quelque chose parce que moi, ça m'a fait penser dès le début à quelque chose, à un autre jeu, plus ou moins des mêmes années, c'est Vampire, encore une fois, qui arrive avec un code très strict pour la Camarilla, où on dit, voilà, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne dois pas... Tu es un autre vampire, tu ne dois pas révéler ta nature de vampire. On a des familles, enfin des clans. Bon, après, on se tire dans les pattes parce que tout le monde n'est pas dans le même clan. Mais au final, j'ai l'impression qu'il y a un peu un peu de ça. Enfin, j'ai eu une impression similaire quand tu nous as décrit les règles de la caravane.
Il y a un petit peu de ça, sauf que en fait,
il y a une lourdeur de règles en moins. Enfin, ça c'est.
Oui, oui, ouais. Bien sûr.
Mais bon, ça c'est un choix. Hein, mais
juste bien, sur Vampire, j'ai l'impression que, au contraire, ça, moi, ça a jamais marché cette histoire. Ouais, mes joueurs, on n'en a jamais rien eu à foutre de tout leur clan, de toute leur famille, de tout. Enfin. Je sais pas si c'est les pouvoirs, si c'est le fait qu'on a des tas de règles pour bourriner.
Le truc, c'est que les vampires sont des gros salauds, quoi.
C'est ça. Je crois qu'on a intégré le fait que.
C'est qu'en fait, t'as ces règles, mais il y a surtout la règle tacite qui est on est tous des connards, on va se foutre sur la gueule, quoi.
Toute ta famille, elle est là que pour t'entuber, pour te récupérer des trucs dans ton dos, etc. Et donc, t'as aucune raison. Alors que là, au moins, la caravane, on se dit, OK, le veneur, il fait un petit sourire. Il est pas tout à fait franc du collier avec nous, mais on a quand même l'impression que globalement il nous aime bien et qu'il est quand même là pour le bien de la caravane dans l'ensemble et que on est tous là, qu'on se prenne la gueule ou pas, pour se soutenir les uns les autres, ce qui est assez rare quand même, il faut bien le dire, dans le jeu de rôle, où généralement les familles c'est fait pour se tirer dans les pattes et se créer des scénars genre Game of Thrones, quoi.
Ouais, ouais, exactement. Ah non, mais c'est ça la différence, c'est qu'on s'attache beaucoup plus facilement à Hurlement et à cette caravane qu'à. Qu'il y a des vampires, quoi.
Oui, non, enfin, Vampire et Mascarade, j'ai rarement craché sur un jeu autant que sur celui-là. C'est un des rares aspects que j'aime bien dans le jeu, mais c'est vrai qu'il marche pas, donc bon, c'est
Vampire
c'est dommage
quand même...
pour lui.
Enfin, oui, Vampire, oui, non, il faudra faire un podcast sur ce.
Oui.
Sur
j'allais demander d'ailleurs, oui, tiens, ton petit à tester les grands classiques.
En fait, ouais, mais en fait, ça, c'est un jeu qui est compliqué. Trois podcasts à tester. Sur Vampire.
Ah ouais.
Parce qu'il faudrait, il faudrait faire trois parties différentes.
Ouais. Il y a plein de jeux déjà différents.
Bon, en tout cas, moi, c'est
super intéressant.
En tant que rôliste, entré pas du tout par les grands classiques, c'est fait partie des grands classiques que je n'ai jamais testé. Donc, je suis preneuse. Ouais. Hein.
Bah écoute, il n'y a pas de problème. On fera des scénars. Moi, je veux bien vous maîtriser du vampire si vous voulez. J'en ai maîtrisé pendant des années. Ça me pose aucun problème. Je pourrais faire ça, tiens. Ouais. J'avais pas pensé à ça, mais je pourrais vous faire ça, un de ces quatre. Et voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le Mans. T'as des choses à rajouter?
Ouais, j'ai deux dernières petites choses.
D'accord.
Donc un petit détail rigolo.
Pas de spoil, hein, salopard.
Non. Dans le matériel, il précise deux petits trucs qui sont assez rigolos. Donc prendre de la bouffe et autres, c'est assez marrant. Et d'avoir un grand tableau pour faire des dessins, des plans et autres. Ça, je trouve ça cool comme idée.
Ah ouais?
Ouais, de pas passer juste par le papier, parce que tu peux, si t'as un tableau à créer, comme ça, c'est cool. Et ensuite, il y a un petit paragraphe où il dit. Le jeu de rôle est en effet prenant, passionnant, et il est quasi impossible de prendre la pleine mesure d'un personnage en quelques instants. Il faut se donner le temps de le découvrir, de l'apprécier et de vivre pleinement ses aventures pour en retirer tout le plaisir, toute la satisfaction que peut apporter
le
rêve éveillé.
Ah oui, là c'est clair et net.
Et ça, c'est pour moi, c'est ce paragraphe qui résume en fait le contrat social.
D'accord. Jérôme, tu voulais.
En fait, il faut prendre le temps de vivre ce rêve éveillé.
Bah non, mais juste te dire que le jeu il déchire. Quoi. Enfin, franchement, de 89, c'est hallucinant.
Mais oui, mais je vais dire un truc. Ouais. Enfin,
vas-y, parce que j'ai une dernière chose, mais vas-y, on peut continuer là-dessus.
En fait, quand on regarde dans ces années-là, en France, parce que c'est un jeu français,
ouais.
Y a vraiment du génie hein, en France.
En fait, je pense qu'on essaye d'inventer le nouveau JDR de l'époque.
Ouais, exactement. Et en fait, ça a échoué. Je sais pas pourquoi. Il faudrait voir pourquoi ces jeux-là n'ont pas fonctionné.
Ouais, je serais vraiment curieux.
Parce que
tu penses à Agone aussi.
Je pense à Hurlement. Je pense notamment aux réflexions de Burps, de Julien Dupré, qui fait des réflexions sur le jeu de rôle traditionnel, qui sont à mon avis extraordinaires et très pertinentes. À mon avis, avant Ron Edwards.
Est-ce qu'ils ont pas
en France, on voit la forge avant Ron Edwards. Je crois qu'il faut bien prendre conscience de ça, c'est que il y a à mon avis à ce moment-là des jeux qui émergent, qui sont vraiment fascinants. Pourquoi n'ont-ils pas trouvé leur public? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et c'est quand l'affaire.
Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé leur public finalement?
Oui, peut-être. Alors peut-être qu'ils ont trouvé leur public et peut-être qu'il est très restreint.
C'est la question que j'avais posée à propos de l'affaire Mérite Dumas, mais je crois que c'est plus tard. Hein, c'est beaucoup plus tard.
Je sais pas.
Bah, oui. C'est dans les quelques années qu'on suit, 89. Dans les années qui suivent, c'est Mérite Dumas, Magic, Internet.
Ouais, mais est-ce que ça explique
Est-ce que c'est ça,
Magic
pas
Internet,
plus,
je pense pas. Parce que, enfin, c'est un jeu à nouveau, je pense, qui a eu beaucoup de succès avec les gens qui faisaient du GN. Donc,
en tout cas, j'ai l'impression que
ils ont vraiment subi Mireille Dumas. Hein,
ouais, moi j'ai vraiment l'impression que Mireille Dumas a été un gros traumatisme qui a bloqué complètement l'émergence de ces jeux intelligents, en fait, tout simplement. Et qui a eu un gros moment de flottement où on s'est interdit, en fait, de réfléchir tout simplement parce qu'on avait peur de déranger. On avait peur que les joueurs, soient pris pour des fous parce qu'ils réfléchissaient en jouant. Il y a eu une vraie régression, je trouve, de la part des rôlistes francophones après Mireille Dumas. À savoir qu'on a eu peur des propos, on a eu peur de déranger, on a eu peur de faire que les jeux fassent sortir de leur zone de confort. Et donc, on n'a pas fait évoluer le jeu de rôle vers le média mature qu'il aurait dû devenir. Et là, aujourd'hui, qu'on est un petit peu décomplexée de la fermière et du Mac. Maintenant, il y a une nouvelle génération de rôlistes qui arrive. Et bien, enfin, ces jeux réémergent et on va les redécouvrir. Et je pense que ces auteurs qui nous ont abandonnés, comme Monsieur Bizien et tout, parce que moi aussi, je me sens très abandonné. Je trouve qu'il y a des auteurs de ces époques-là qu'on n'entend plus du tout, on ne sait plus où ils sont, ils ont disparu.
Jean-Luc Bizien a écrit deux jeux de rôle et depuis, il fait du polar et du roman.
Oui, mais peut-être qu'il reviendra.
Écoute, peut-être Jean-Luc Bizien, Hurlement, c'était génial. Voilà. Chimère, je ne sais pas. J'ai pas essayé. Hurlement, c'était génial. Reviens, s'il te plaît. Refais-nous un jeu de rôle.
Je suis sûr que Jean-Luc Bizien, il a quitté le jeu de rôle parce que il a vu que c'était une impasse en termes de public. Ça marchait pas très bien. C'était un très bon auteur, mais à un moment donné, il s'est dit, je préfère autant aller exprimer.
Et Valérie Bizien aussi, parce qu'a priori, c'est les deux. Hein.
D'accord. Quel couple. C'est un couple extraordinaire. Bravo. Bravo à vous deux. Vivien, tu voulais ajouter quelque chose?
C'était juste sur Mireille Dumas. L'idée, justement, ça allait bien avec Hurlement, parce qu'apparemment, une des idées du jeu, c'était notamment de prendre les prénoms des joueurs.
Ouais.
Et on sent peut-être, alors après que je connais pas les secrets, mais peut-être quelque part des interrogations aussi sur les liens entre
joueurs,
personnages, etc. Et ça, s'il y a bien un truc qui a pris un coup avec Mireille Dumas, c'est bien ça, quoi. Mmh. C'est Cult avait été le premier à morfler là-dessus, parce qu'il, après, moi, j'ai jamais joué, mais quelque part, il interrogeait la solidité de la réalité.
Ouais,
et ça, c'est genre
Cult qui... est d'un point de vue super malsain aussi.
Oui, bien sûr. Ouais,
voilà, alors que Hurlement, je pense que la quête initiatique mène à des choses un peu plus
posées,
un peu moins violentes. Mais c'est vrai qu'il y a eu
Hurlement, dans le regard de Mireille Dumas, j'y vois du danger dedans.
C'est ça, quoi. C'est bien ce qui me semblait.
Très intéressant.
Une petite question que je voulais te poser. Hurlement, à chaque fois que je suis tombé sur Internet, ce fond noir avec écrit Hurlement comme ça de façon très... Et ce nom Hurlement au pluriel, j'ai toujours cru que c'était un jeu à la culte ou un jeu d'horreur.
Ce n'est pas
du tout le cas, donc on est d'accord. Parce que là, le scénario était aussi un petit peu étrange aujourd'hui.
Le plus étrange que tu vas voir, c'est des scénars qui virent un peu au mi-rêve, mi-réalité, peu merveilleux, mais t'auras jamais d'horreur. Enfin, c'est...
D'accord.
Ou alors on peut s'amuser à le faire.
Mais c'est vrai que moi, c'est une question que je m'étais posée en voyant la tranche du jeu dans ta bibliothèque, en fait.
Et vu que personne veut ne renseigner les gens sur le jeu en disant non, mais tu comprends, si je te dis des trucs, ça va te spoiler.
Ouais.
Donc, moi, je me dis, je veux pas lire pour pas me spoiler. Du coup, j'étais persuadé que c'était un jeu d'horreur.
D'où vient le titre, d'ailleurs, Hurlement?
Ça fait référence au Hurlement de loup, je pense.
D'accord, okay.
Vraiment. Le loup, c'est la crainte de l'époque.
Au pluriel. Ouais. Ah oui, d'accord.
C'est la crainte de l'époque, c'est aussi une référence au personnage des joueurs.
D'accord, ok. Tu voulais ajouter une dernière chose en conclusion?
Oui, je voulais ajouter une dernière chose en conclusion. Après le départ de la caravane, le veneur viendra vous voir. Un jour, il marchera pas à côté de vous sur le chemin. Et il vous dira: mes chers initiés, ce premier voyage que nous avons fait ensemble aura montré votre intérêt pour cette caravane. Et à présent, vous accédez au rang de questeur.
D'accord.
J'ai eu un frisson.
Et voilà.
D'accord. Merci Adrien pour cette présentation d'Hurlement. C'était vraiment une super expérience. Avec Natacha, je ne sais pas, avec Vivien et Jérôme peut-être, en tout cas nous, on a vraiment envie de continuer ce jeu. Merci tout simplement.
De rien.
Et puis si les Bizien nous écoutent, qu'ils reviennent, parce que le jeu de rôle a besoin d'auteurs comme ça. Allez, à bientôt tout le monde. Râlez moins un peu plus, c'est ça qui compte. Hurlez bien.